Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Cette semaine, on va vous raconter des histoires. Ou plutôt, on va parler de jeux qui racontent des histoires. Ou plutôt, on va parler de comment les jeux racontent des histoires avec des jeux pour illustrer ça. Et notamment, Kentucky Route Zero, PC et TV Edition. Donc en fait, c'est les 5 épisodes de Kentucky Route Zero qui sont enfin sortis 6 ans, 6 années pour 7 cette année pour remplir comme ça, pour arriver à la fin des aventures de cette route, de ce camion, de ce livreur de meubles d'antiquités. On parlera aussi de Not For Broadcast, de Wide Ocean, Big Jacket, de Coffee Talk et de 428 Shibuya Scramble, un jeu un peu plus vieux, mais finalement...
On était
dans la narration et ça rentre... parfaitement dans la thématique. Et le reste du programme, vous connaissez avec la chronique, évidemment, la chronique Jeux de société de Jeremy Kletzkin, le com des coms, etc. Et je commence en accueillant 3 de mes chroniqueuses. C'est très bien. Hein. On nous a proposé ça sur Twitter et c'est vrai que...
Un joli mot.
Chroniqueuse. Avec Camille Suard. Bonjour Camille.
Bonjour.
Patrick Elio. Bonjour.
Bonjour Erwan.
Et Marius Chapuis. Bonjour Marius.
Salut Erwan.
Tu es un peu un héros d'être là vu ton état.
Écoute, les transports marchaient très bien. C'est très facile.
Tout va bien. On va commencer avec... un peu la news de départ de cette semaine, c'est Dan Houser qui est parti Red Dead Redemption.
C'est un peu ça, mais...
qui est parti de Rockstar. Ouais. Grosse news quand même parce que
oui, c'est tremblement de terre parce que c'est une figure du jeu vidéo moderne. On n'en sait pas beaucoup plus. Hein. On sait juste qu'il avait fait une pause assez longue a priori au printemps 2019. Donc j'imagine que ça devait être juste après Red Dead 2, grosso modo, toute cette polémique aussi autour du crunch qu'il y avait eu lorsqu'il avait carrément assumé le fait que les équipes avaient vraiment appuyé sur l'accélérateur jusqu'au bout pour sortir le jeu qu'il voulait sortir. Donc il a fait une pause et là donc on vient d'apprendre officiellement qu'il quittait la boîte. Donc c'est une figure parce que derrière son nom il y a toute l'historique des jeux Rockstar emblématiques. Ça pose pas mal de questions. Pourquoi est-ce qu'il part maintenant? Est-ce que c'est un choix délibéré? Est-ce qu'il a été poussé gentiment vers la sortie? Après, ça lui appartient, j'ai envie de dire. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que toute cette polémique autour du crunch qui a eu lieu justement après, autour de la sortie de Red Dead 2, qui a quand même fait pas mal discuter, qui a quand même pas mal enclenché toute cette prise de conscience du crunch omniprésent, on en parlait encore la semaine dernière.
On va en reparler un peu.
Est-ce que c'est lié ou pas? Ça pose pas mal de questions. Après, on peut aussi imaginer qu'après des années à bosser sur des... Je pense qu'on... On ne sort pas complètement indemne de projets de cette ampleur. Je pense que même humainement, que ce soit bah, les employés qui a priori ont travaillé sur des, sans compter les heures, mais même en termes de, voilà, d'organisation, etc., de production d'un jeu, je pense qu'on n'en sort pas complètement indemne. Je peux comprendre que ça peut abîmer et qu'au bout de quelques productions de cette envergure, on ait envie de prendre l'air. Après,
c'est pas la peine de rentrer non plus dans des conjectures.
Bah on n'a pas les clés.
Mais c'est vrai que c'est une figure qui a imposé aussi un discours, une sorte de prise de position narrative en termes d'ambition de mise en scène, etc.
Oui, médiatiquement, ça a toujours été quelqu'un d'assez structuré, qui savait bien parler des jeux. Ouais. La question, c'est est-ce qu'effectivement, cette espèce de culture du travail à outrance est liée à ce type-là ? Parce que lui, il l'a souvent assumé. À quel point un type dans une boîte aussi grosse peut développer une culture assez nocive ou pas?
Le problème, j'ai l'impression que le crunch, c'est un peu la norme, malheureusement, de beaucoup de studios.
On va en parler un peu plus tard, très vite d'ailleurs. Dans les arrivées-sorties, il y a des arrivées aussi.
Alors,
mais
des bonnes nouvelles, parce que c'est vrai que c'est un peu tristouille quand même de voir Hauser partir. Non, une bonne nouvelle, on vient d'apprendre que Nicolas Doucet, donc, qui est un Français qui travaille au Japon chez Sony, devient directeur de la division Sony Interactive Studio Japon. C'est pas rien, surtout dans le contexte actuel. Hein, on est en pré-sortie de la PS5, on sait que là il y a des projets très importants qui sont en cours, qu'on ne voit pas pour le moment, on n'a qu'une surface visible de l'iceberg très réduite, mais on sait qu'il se passe des choses très importantes en coulisses. Lui, ça fait 16 ans qu'il est chez Sony, il a passé les 9 dernières années au Japon, je regarde mes notes, hein, il a été directeur créatif sur Astro Bots, c'était un peu le monsieur VR, PSVR depuis quelques années. Moi je l'avais rencontré je crois à la Paris Games Week, c'est un mec très sympa vraiment, on avait pas mal discuté de la production.
T'as 106, il peut venir dans Silence on Joue ou...
Ah bah écoute, ça serait chouette, je pense qu'il faut, ça va être
en même temps, est-ce qu'au Japon, les portables, ça commence par 0,6?
Ah, je suis pas sûr, c'est une question technique.
Ça doit passer si t'as une petite extension.
Mais ce que je veux dire, c'est que sa nomination n'est pas anodine. Astro Bot, c'était vraiment pour moi un des meilleurs titres, c'est un des meilleurs titres du PSVR. On peut dire que c'est vraiment un titre locomotive qui montre ce dont est capable le casque de réalité virtuelle chez Sony. Doucet, il a aussi travaillé sur Playroom VR, sur iPad, il est rentré pour les iToy, et puis il a travaillé chez Lego avant, les jeux vidéo Lego, etc. Donc il a vraiment tout un cursus intéressant. Moi, ce que j'aime bien, c'est le jeu vidéo, mais qui essaie de sortir de l'écran et qui a des propositions un peu alternatives. Et encore une fois, le fait que la personne qui était en directeur créatif et producteur de Astro Bots devienne directeur de la division Sony Interactive Japon, c'est pas rien. C'est aussi un signal sur, j'imagine, c'est plutôt un bon signal pour la suite de la réalité virtuelle, notamment chez Sony, en tout cas d'autres expériences comme ça, alternatives, intéressantes de recherche, de propositions qui changent un petit peu. En tout cas, c'est chapeau à lui, donc un Français qui monte en grade chez Sony Japon, et ça c'est une bonne nouvelle.
Pour continuer dans le name dropping, je passe avec à toi, parce qu'on allez, tant qu'à sortir des noms, Camille, toi c'est Cliff Bleszinski
qui est revenu sur Instagram.
Il fait souvent des déclarations, lui.
oui mais elles sont pas toujours très heureuses. Donc pour situer le monsieur, donc c'est lui qui est à l'origine de la licence Gears of War. Ensuite il a fondé son studio qui s'appelait Bosky, et il a lancé deux jeux dont personne ne se souvient, dont Lawbreakers.
Dans les années 80 aussi. Il n'y avait pas un jeu dans les années 80 qui s'est complètement planté, on en avait parlé, je crois, si je n'ai pas de bêtises.
Possible. Donc du coup, plutôt que de dire que en fait, c'est surtout Overwatch ou les jeux comme Fortnite qui ont pu faire de l'ombre... Il a déclaré que en fait non, là, c'était la faute au trop politique, au fait que le jeu soit un peu woke et ouin ouin, le PDG social Justice Warrior, il veut pas que les persos féminins soient trop sexy, ou il voulait trop de diversité, donc du coup c'est pour ça que le jeu il a pas marché quoi, en fait.
Ah mais oui, Lawbreakers, c'était le l'Overwatch like qui s'est gaufré à cause d'Overwatch.
Oui, mais en fait
qui était années 80, il était typé 80s.
Mais en fait si tu regardes les critiques, c'est qu'en fait le jeu était très très mal fait, en fait. Il y avait beaucoup de choses qui allaient pas, et c'était absolument pas à cause de,
Et sachant que ce qui est un peu chelou quand même dans cette déclaration, outre que rien ne va dans cette déclaration, on est d'accord, mais ce qui est chelou, c'est que le jeu responsable de sa chute, Overwatch,
les meufs, c'est inclusif, ouais. C'est divers. Enfin,
ouais. Non, mais ce qu'il veut dire, c'est que lui, en tant que petit studio, il ne pouvait pas se permettre de faire un jeu politisé, que du coup, il n'y a que les grands qui peuvent faire ça. Alors que, bah, en fait, oui, quoi qu'il fasse, un jeu, il est politisé de base.
C'est pas une
question
de moyens.
C'est ça, c'est les gens de Call of Duty.
Non, mais ne vous inquiétez pas, il est en train d'écrire ses mémoires sur le jeu vidéo, donc on va tout savoir.
Et je crois que ce n'est pas sa sortie, justement. Je crois qu'il a été. Il a un peu aigri ce monsieur autour de ce jeu, notamment. Je crois qu'il s'est vraiment pris une fessée, du coup il a un peu de mal à le digérer et je crois que c'est pas sa première sortie.
Oui c'est pas la première fois qu'il sort
des choses
comme
aigri,
ça
ouais.
Ouais. C'est bien,
franchement c'est étonnant venant de la part du créateur de Gears of War de oui. Mettre tout sur le dos des PD et des femmes. Ouais. Non, vraiment
c'est tout va bien. C'est les Social Justice Warriors, ouais, évidemment, qui sont responsables de la chute des jeux de merde. c'est écouté, hein. On sait déjà ça à leur crédit. Patrick, on va continuer avec on va finir avec quelques chiffres rapides de sortie.
Allez, moi je reviens rapidement sur un de mes chouchous de fin d'année, c'est Luigi's Mansion 3. Je crois pas qu'on avait abordé les chiffres de vente. Il a vraiment cartonné puisqu'il aurait fait 4 millions de ventes en 9 semaines. C'est vraiment une très belle performance. Parce qu'en fait, il a fait deux fois plus de ventes que le précédent qui était sur Game Boy Advance.
Est-ce que c'est pas chouette. Aussi, enfin, sans vouloir revenir sur la qualité intrinsèque de Luigi's Mansion 3, c'était un peu la sortie Nintendo de Noël.
Oui.
Oui, mais non, mais c'est un extraordinaire jeu. Moi, je trouve vraiment qu'il est... il transcende pour moi la série et c'est vraiment mérité.
Okay. On en a déjà parlé.
En revanche, l'autre chiffre, c'est Star Wars Fallen Order. On en avait parlé il y a quelques semaines maintenant, hein, de ce dernier Star Wars, le premier jeu solo Star Wars depuis très longtemps. Alors lui, les ventes sont supérieures aux objectifs chez Electronic Arts. Je crois qu'il visait dans les 6-8 millions de ventes et maintenant ils ont monté leurs objectifs à 10 millions, ce qui veut dire que ça a bien marché, les ventes sont supérieures à ce qu'ils attendaient. Évidemment, le titre comble ce que je disais, une attente d'un jeu Star Wars scénarisé, ça manquait vraiment. Bon, alors là, il faut s'attendre maintenant à une suite. Alors d'un côté, on est content qu'un jeu Star Wars plutôt honnête et trouver son public. Je crains maintenant qu'on rentre vite dans une sorte de routine, parce que le jeu était honnête, correct, bien fichu, mais pas révolutionnaire du tout. Il y avait quasiment pas.
Il tournait vite en rond aussi.
Exactement,
enfin, il y
pas
avait
de
prise
de risque.
Où...
Moi, j'avais évoqué quelques passages un peu gênants, style Tomb Raider 1 ou 2, il y a quelques années, voire 3, ce qui n'est pas forcément une meilleure des auspices. Donc, on risque, malheureusement, connaissant un peu Electronic Arts, de vite rentrer dans une logique d'exploitation maximale du truc, avec des suites qui vont s'empiler.
Des fois, les numéros 2 sont bien.
Oui, mais oui, tu vois, je pense que le jeu a bénéficié d'une espèce d'effet de surprise.
Oui, bien sûr.
Personne n'en attendait grand chose.
Tu avais une attente pour un mode
là,
pour un jeu solo.
Là, tout le monde sera un peu moins.
Oui, c'est
mais
vrai.
Ça se trouve,
bien
luné
devant le jeu, quoi.
Ils vont faire mieux.
Ouais, et puis en plus, ça avait un contexte cinéma compliqué pour Star Wars, ce qui fait que ce jeu aussi a remonté pour ça.
C'est
que c'est un jeu honnête.
Star Wars.
Ah, mais là, c'est encore plus compliqué en ce moment au cinéma, donc et pas qu'au cinéma.
Il faut être optimiste. Le com des coms de la semaine dernière, avec un nouvel arrivant, mais qui a choisi un pseudo fait de caractères imprononçables, des carrés noirs, donc. Je ne sais pas, mais il se reconnaîtra. Je vous écoute depuis le début, mais c'est la première fois que j'interviens sur le forum. Une petite réflexion que je me fais à propos de la problématique du crunch depuis quelques semaines en tant que journaliste. Il s'agit donc d'analyse, de critique, pas de promotion d'objets culturels. Ne serait-il pas intéressant de lancer un mouvement ne parlant pas des jeux dont on saurait qu'ils ont été terminés grâce au crunch, de par ce travail journalistique, justement, parler d'un jeu 6 mois après sa sortie, par exemple, si cela aurait été le temps nécessaire. Ça me semble bizarre comme phrase. Pour le terminer sans crunch me semblerait juste et permettrait de ne pas cautionner involontairement ces jeux. De plus, un éditeur, sachant qu'une partie de la presse ne parlera pas de son jeu à sa sortie, fera peut-être davantage attention à ses employés. Alors ça, c'est déjà, compliqué. Je pense que c'est accorder énormément de pouvoir aux journalistes.
Après, les journalistes, ils ne sont pas là pour faire vendre des jeux.
Déjà, les journalistes...
Ou ne pas faire vendre des jeux, c'est pas le travail d'un journaliste.
Ouais, et puis les informations sur les coulisses de développement ne sont pas toujours limpides. Justement, tout ne sort pas toujours.
Et aussi, je comprends la logique derrière, c'est-à-dire une sorte de boycott éditorial d'un jeu de ressort. Alors déjà, il y a plusieurs soucis, c'est que les conditions de travail, généralement, les informations arrivent après la sortie du jeu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les journalistes sont censés aussi faire un boulot de journaliste, c'est-à-dire, par exemple, parler de conditions de travail quand on parle du jeu en même temps, aborder ces deux types d'informations. Et deuxièmement, si les, dernièrement, si les journalistes désertent le terrain, ce sera aussi toute la place pour les éditeurs pour communiquer via des, entre guillemets, je fais les gros guillemets avec les doigts, les influenceurs, dont on sait qu'ils ont une forme de frappe médiatique aujourd'hui assez importante. Donc aussi, si on désherbe le terrain de la critique et de l'information, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et comme le rappelait Marius, on n'est pas là non plus pour faire vendre des jeux. Même si on en fait découvrir ou on peut dire notre avis,
nous ne sommes pas qu'un guide d'achat. Voilà.
Voilà, non, mais après, je comprends, c'est vrai que je comprends aussi sa question.
Mais bien sûr, c'est pour ça.
C'est une forme de pénalité, mais c'est compliqué à mettre en place. Et encore une fois, tout ne fuite pas toujours. Donc ça devient vite inégalitaire.
Parce qu'après, c'est quoi, enfin, tu vois, si un jeu est chouette, mais que son créateur est un gros con, est-ce que nous, on va s'interdire d'en parler parce que machin a fait une blague?
S'il n'y a pas d'impact sur les. Mais ça, tu ne peux pas le savoir. Puis, voilà, il faudrait se donner un décalage d'un an. On dit qu'on ne teste rien qui a moins d'un an.
On se prend une année sabbatique.
On décale ça d'un an.
Oui, enfin là, on a avec quand même un exemple avec Cyberpunk. On le sait qu'il y a le crunch. Donc qu'est-ce qu'on fait?
Red Dead 2, c'est pareil, c'était quasiment assumé. Voilà quoi.
On va revenir.
Non, mais c'est vrai que Red Dead 2 avait fait renaître un petit peu ce débat. En tout cas, l'avait remis vraiment en lumière. Pour Cyberpunk, tout le monde est au courant, les mecs assument. Y a pas, et pour autant, on en parlera quand même.
C'est compliqué de...
Stonganov qui répond à ce qu'on avait dit dans l'émission précédente et peut-être au commentaire précédent, c'est pas très clair, mais je trouve vos élucubrations autour du crunch sur le jeu vidéo assez hypocrites et pour plusieurs raisons. Alors j'ai un peu coupé dans ses propos et j'ai dû oublier une dernière raison, mais c'est juste pour vous donner l'accès. En premier, lui il dit c'est le même process dans de nombreux métiers, sorti d'un film, crunch pour la fin de la prod, crunch durant une tournée professionnelle, il parle même des crunch des ouvriers à la sortie d'un nouveau produit. Alors à ça on peut répondre qu'il y a un truc qui s'appelle le droit du travail et que c'est pas fait non plus pour les chiens.
Et c'est pas parce que ça existe ailleurs que c'est bien
quand il y a une prise de conscience et quand il y a quelque chose qui est intégré au début du processus ou dans des boîtes qui ont intégré cette notion-là, c'est aussi quelque chose qui fait partie de l'organisation en termes de délai de sortie ou de choix de date de sortie, etc. C'est un choix aussi. C'est un choix de pouvoir compter ou pas sur le crunch.
Et c'est pour ça que la sortie, j'ai plus les mots exacts, mais la sortie de Hauser à l'époque avait frappé énormément parce qu'il l'assumait presque comme un argument. Ça devenait un argument promotionnel de dire les mecs ont appuyé sur le champignon jusqu'au bout. Attention, parce que là, ça devient vraiment... presque un argument de vente dans ce cas-là. Stop.
Non, puis on parle aussi d'un secteur où finalement les employés ont peu de pouvoir, où il n'y a pas de syndicat, où il y a beaucoup de turnover aussi.
En termes de rapport de force salarié-employeur, c'est un peu compliqué. Deuxième élément, donc toujours selon Stanganov, quand un Mojang parle des nuits blanches qu'il a passées, alors Mojang, il parle plutôt de son créateur, comment il s'appelait le créateur de Minecraft, quoi, passe des nuits blanches qu'il a passées à fignoler son Minecraft, c'est aussi du crunch. Alors ça, c'est intéressant.
Mais attention,
c'est du crunch personnel, si on peut, on peut se lancer tout seul dans des trucs. Ça peut faire des ravages pour autant dans le bouquin
de Schreier
sur des pixels et des larmes.
Stardew Valley. Un de ses meilleurs passages d'ailleurs du bouquin qui est fabuleux.
C'est émouvant, tu vois.
On peut totalement s'auto-cruncher, mais c'est pas la même problématique.
C'était quel film ? C'est In the Game, non ? C'était pas ça ? C'était sur les créateurs de Fez.
Oui.
Et en fait, ils montraient que ça, en fait, des personnes qui se sont sacrifiées leur vie et tout ce qu'il y a autour. Et enfin, c'est. Oui, mais non.
Disons que quand t'es tout seul, c'est ta responsabilité. T'as pas tellement le choix aussi parce que c'est ton moyen. Enfin,
ouais, mais ne nous montrer que ça, en fait, finalement, ça banalise un peu aussi.
Oui. Ça rappelle des gens qui se vantent, par exemple, de ne pas dormir beaucoup la nuit et que c'est vachement des bosseurs. Je ne comprends pas ce genre de truc. C'est vrai, mais jusqu'au président de la République, hein, ils disent « Ah là là, monsieur Macron, il ne dort presque pas. Bah, » C'est en dormant qu'on devient intelligent.
Justement, il faut relire Schreier. Il faut toujours relire Schreier sur son bouquin. Il est passionnant. Et le passage sur Stardew Valley est touchant parce qu'il y a sa femme qui l'aide. Et c'est quasiment grâce à elle.
Toujours les personnes à côté qui doivent prendre soin et réparer les pots cassés.
Et c'est flagrant.
Et gérer... pour le fait qu'il puisse faire ça, en fait.
Ouais, et c'est clair. Et c'est, sa femme ne serait pas là, ce jeu ne serait pas là, le mec... on sait... Enfin voilà, elle l'était là. Elle l'a... Et on le lit dans le bouquin, c'est flagrant. Ouais.
Troisième point, les journalistes qui fustigent le crunch par des news et des dossiers comme Canard PC ou Gamecult sont ceux-là même qui évoquent régulièrement dans leurs pages, comme Canard PC et dans leur stream Gamecult, la pression de fin de bouclage, de fin de test.
Ça, c'est
ils
ça.
Évoquent non, leur manque de sommeil, les litres de café avalés, n'est-ce pas exactement la définition du crunch?
C'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit de le dénoncer.
Oui,
alors si, il faut voir aussi que même si CPC ou Gamecube sont aussi des petites structures, par exemple, ou qui n'ont pas suffisamment intégré ce genre de choses, ce genre de contraintes. On peut dire aussi que dans un quotidien comme Libération, si on était en mode crunch, genre vous faites des journées de 12 heures tous les jours parce qu'il faut sortir le canard, je ne dis pas que c'est jamais arrivé.
De toute façon, tu ne peux pas. Nous, on a des... on a des process qui sont...
Voilà, on a des process.
Ouais, le temps de travail est... mais tu...
Ouais. Moi, j'ai déjà travaillé dans des petites rédactions, des petites structures, et c'est vrai que des fois... pour boucler le week-end, c'était un peu compliqué, quoi. Le vendredi, il fallait...
Mais c'est pas pour autant que ça justifie le truc. C'est une erreur de management, d'organisation, de choses comme ça, qui est commune, qui est très commune. Il faut bosser pour aller à l'encontre de cette problématique de l'organisation.
Si on ne fait rien,
cette organisation un peu laxiste où ça finit en crunch...
Mais c'est très vicieux parce qu'au final... En tant que journaliste ou autre, tu restes parce que les autres restent aussi. Tu veux pas lâcher les autres et du coup tout le monde reste et puis voilà.
Ouais, puis on est aussi sur des métiers, on est sur un environnement cyclique, t'as des pointes d'actualité, t'as l'E3 par exemple, je veux dire l'E3 parce que ça me vient en tête,
mais t'as
des
moments aussi où voilà, t'as de la récup normalement peut-être.
Métier est comme ça aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un métier où tout se fait de façon fluide et les événements, l'actu, elle arrive par moments comme ça, t'as des sorties de jeu d'un seul coup, t'en as 30 parce que c'est le moment de l'année où t'as un pic, ou en fin d'année ou maintenant au premier trimestre, t'as des pics comme ça de sortie qui font qu'évidemment t'as plus de travail, t'as besoin aussi de t'adapter. C'est pas un long fleuve tranquille non plus, l'actu jeu vidéo, elle est aussi rythmée.
Après, c'est pas un réflexe de gauchiste de dire qu'il faut pas faire de crunch et compagnie, c'est qu'il y a aussi une qualité du travail qui est moins bonne quand on sacrifie les gens pendant des heures et des heures. La productivité, elle est moins bonne, on est moins intelligent, on est moins réactif. Et c'est, au final, c'est toute la qualité du jeu, d'un papier, de n'importe quoi, qui est empathie.
C'est important de se
mettre
le
temps. C'est pas juste
une
position pour dire qu'il faut... il faut moins travailler, quoi.
Et on se rend compte aussi, c'est une organisation par défaut, le crunch. C'est-à-dire que si tu penses ton organisation, tu vas penser à des systèmes pour lutter contre ça. Le arriver à un crunch, c'est aussi un défaut d'organisation.
Après, j'avais vu des papiers où le jeu vidéo a un cas un peu particulier, apparemment. Enfin, moi, je connais pas super bien dans les détails, mais c'est que chaque jeu correspond à un prototype, en fait, et que c'est difficile d'anticiper tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Oui. Et du coup, c'est une horreur en termes de management, de programmation
T'es toujours dans le recalcul, tu recalcules
un magazine ou une entreprise assez lycée, on peut
plus
établir des process un peu plus simples, quoi.
Dernière remarque, vous ne savez rien de ce qui se passe chez CD Projekt, ce ne sont que des conjonctures, vous ne savez pas quel est le sens du crunch chez eux, hors sup dans le respect de la légalité, hors sup au-delà du légal, etc. Là-dessus, on sait. On sait beaucoup de choses de ce qui se passe chez CD Projekt, notamment grâce toujours au même, Jason Schreier chez Kotaku, qui avait fait tout un truc sur le crunch chez CD Projekt, notamment sur deux points. Alors, il y a un point pour répondre au truc, là où aussi on sait, notamment sur les heures sup chez CD Projekt, qui sont rémunérées, c'est indiqué. Ils disent bien que CD Projekt Red donc paye tous les heures sup à 150% pour les nuits, 200% pour les week-ends, etc. Donc ça, c'est dans le cadre de la légalité, sachant qu'on parle de salaire polonais. C'est juste que c'est pas non plus les mecs qui deviennent pas Rockefeller non plus. Et juste pour ce qui est sorti sur CD Projekt Red, à la fin du développement de The Witcher 3, c'est quand Jason Schreier notamment avait sorti son enquête sur Anthem et BioWare et sur les conditions déplorables d'Anthem et BioWare, il a reçu des mails de gens de CD Projekt Red qui ont dit: on peut reprendre le papier et changer le nom du studio et changer le nom du jeu, on a pratiquement exactement la même chose. Et il faut voir les détails que sur le développement chez BioWare que donnait Jason Schreier dans son papier, où il disait que un ancien employé de BioWare essayait régulièrement de trouver des endroits privés pour fermer une porte et juste pleurer, et disait que il y avait les gens étaient tellement en colère et tellement tristes tout le temps, il disait que la dépression et l'anxiété étaient devenues une épidémie chez BioWare.
C'est triste. Ouais.
Et Schreier dit qu'il a reçu des mails en disant, vous pouvez changer le nom du studio et le nom du jeu, et c'était la même chose chez CD Projekt. Donc, on sait des choses. On sait aussi qu'il y a des prises de position des boss de CD Projekt en disant, on va essayer, on sait qu'on est devenu une référence pour les gamers, on va essayer de devenir une référence pour les développeurs. Mais voilà, on sait aussi qu'ils assument une partie de la philosophie du crunch. Donc qu'est-ce que ça donne? C'est vrai que, et ce que je voulais dire, c'est qu'on va surtout attendre ce qui va sortir et ce qu'on va réussir à avoir comme info sur les conditions de développement de Cyberpunk après ou pendant. Voilà, mais on va suivre ça de près. Voilà, c'est juste ça, sans passer en conjecture. Bref, c'était le com des com.
C'est glaçant, hein, c'est vrai que ces passages-là que tu recites de...
sur Anthem,
ouais,
sur BioWare,
c'est glaçant,
c'était fou. Wow. Allez, on en était où? Tac, tac, tac. Oui, bah c'est le moment de on va parler de, on va
ça
parler
y est,
d'histoire.
Enfin,
on se rend tout de suite dans le Kentucky. Trois ans et demi pour un épisode. On se plaignait. On se plaignait de Dontnod. On se plaignait de Life is Strange 2. Trois ans et demi entre le quatrième et le cinquième acte de Kentucky Route Zero. Mais enfin, on arrive à une conclusion de ce jeu par épisode qui a débuté il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine. Le 7 janvier 2013, le premier acte sortait. Après, ils étaient pas mal, hein, sur le 31 mai 2013 pour le second épisode. Le troisième, alors déjà, ça a commencé à avoir un an d'écart en mai 2014. Deux ans d'écart. En fait, c'est quoi? C'est Fibonacci qui monte comme ça. La courbe. Heureusement qu'il n'y a pas de... Heureusement qu'il n'y a pas eu de sixième épisode parce que...
C'est quoi? C'est l'anti-crunch.
Oui, c'est ça. Bah, ils ont parlé ils en ont parlé pour un article pour The Verge où ils expliquaient qu'au début, ils voulaient sortir genre tous les 3-4 mois un nouvel acte, et ils se sont rendus compte que non, en fait, on veut prendre notre temps. Ah, on a besoin de temps pour pouvoir mettre toutes nos idées dans chaque acte.
Ils ont pu le faire, ce qui n'était pas...
Et ils se sont dit, on arrête de se la jouer industrielle et on...
Voilà. Et ceux qui parlent et ceux qui arrêtent de se la jouer industrielle, c'est Jake Elliott et Tamas Kaminski. Et le musicien, alors, parce que ce sont les trois noms qui ressortent, Ben Babbitt pour la musique. Et le collectif, c'est Cardboard Computer. Donc, ça y est, on peut jouer. Je sais qu'il y a des gens... Il y a des gens qui attendent d'avoir la totale pour commencer les jeux en épisode. On peut jouer à Kentucky Route Zero, Camille.
Oui, moi, j'ai découvert Kentucky Route Zero là. Du coup, j'ai pu faire les 5 actes d'un coup et je m'en réjouis parce que ça aurait été très dur d'attendre entre chaque acte. Alors, comment parler de ce jeu? C'est un peu compliqué. Moi, je l'ai ressenti un peu comme si je m'étais perdu dans une expo d'art contemporain, en fait. J'ai mis de côté toute la logique, j'ai mis de côté tout ce qui est rationnel, et j'ai attendu de recevoir quelque chose de complètement étrange et qui m'a fait vivre des émotions étranges que j'aurais du mal à expliquer. Voilà.
C'est pas si mal le coup de l'expo, parce qu'effectivement, moi de mémoire, c'est la seule fois où j'ai visité une expo dans un jeu vidéo.
En plus, oui.
Où tu passes une heure volontiers à te balader dans un truc, et ça sert juste d'interlude entre deux épisodes.
Et ça joue beaucoup sur les symboles. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve au fur et à mesure des actes. Et du coup, tu as plein de choses. Tu te dis, je crois que j'ai compris quelque chose. Et au final, c'est plein de choses qui s'accumulent. Et au final, tu n'as pas besoin de l'expliquer, tu as juste à le vivre.
Alors, pour revenir à quelque chose de peut-être plus concret, parce que c'est vrai que si on parle directement sur qu'est-ce que Kentucky Route Zero fait aux joueurs, c'est vrai que là, je pense que les auditeurs qui ne connaissent pas le système vont être un tout petit peu perdus, parce que c'est le but aussi de ce jeu, de perdre le joueur.
Bon, c'est l'histoire de Conway, ouais. Un mec qui livre des antiquités et qui doit faire sa dernière livraison dans le Kentucky. Mm-hmm. Donc, on est dans une Amérique plutôt rurale, un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et du coup, seulement il ne trouve pas l'adresse où il doit livrer. Et du coup, il tombe dans une station-service d'un monsieur qui lui explique qu'il faut qu'il prenne la route zéro.
Pour arriver au 5 Dogwood Drive.
Ouais, c'est ça. Et la route zéro, c'est une route qui n'est pas située sur une carte. C'est une route tu tombes dessus et voilà quoi. Donc du coup, voilà. Et puis il rencontre au fur et à mesure des personnages tout aussi étranges. Et finalement, on se retrouve avec tout un équipage qui traverse le Kentucky de façon très étrange, à dos d'aigle géant.
Et on est dans un système qui est le système point and click.
Ça y ressemble au départ. Ce qui est assez marrant, c'est que la première scène est vachement claire en fait. Elle est à la fois assez simple par rapport à ce que le jeu va devenir quelques épisodes, années après. Mais il y a déjà quasiment toutes les intentions, en tout cas une partie des intentions qui sont vraiment très claires. C'est qu'on discute avec ce vieux monsieur dans la station service, on clique sur des trucs, il faut récupérer un petit machin qui permet d'ouvrir la porte. Et en fait, on se rend compte qu'il y a deux, trois petits moments où ce qui devrait être un point and click simple ne l'est plus, dans la mesure où, par exemple, il faut accéder à l'ordinateur du vieux monsieur, et lui nous dit que le mot de passe, il s'en souvient plus, que c'est la mémoire des doigts qui fonctionne. Et devant l'ordinateur, on a trois choix, et en fait, peu importe le choix qu'on fait, de mémoire, hein, parce que ça fait quelques...
Oui.
Le truc est bon. En fait, le jeu ne cherche pas à créer des énigmes, mais à proposer aux joueurs des chemins qui deviendront rétroactifs, qui inventent une histoire en même temps que...
Oui, en fait, c'est toi qui écris l'histoire en même temps. Puis c'est assez drôle, parce que des fois, tu contrôles plusieurs personnages, et tu fais les questions et les réponses en même temps, et du coup, tu crées vraiment tout un dialogue.
C'est intéressant, parce que c'est l'opposé exact de l'école LucasArts, où il fallait se plier à la logique complètement absurde.
Comprendre la logique absurde.
Gilbert et autres, c'est-à-dire que c'est l'exact contraire, là. On n'est pas du tout dans une...
De toute façon, ce jeu est illogique au possible.
Oui et non.
Il se calme quand même sur ta façon de jouer.
Oui.
Et il a une sorte de confort dans ce sens-là, quoi. Il te permet de...
Mais ce que je trouve le plus dingue, en fait, c'est que contrairement à tout ce que pose le jeu vidéo, on n'est pas acteur du jeu. On n'interprète pas Conway, on interprète une multiplicité de personnages. Et en fait, on est narrateur. Enfin, j'essaye de trouver le bon mot, mais c'est le truc très étrange où les dialogues n'ont finalement d'importance que pour nous. Et pour ce que l'univers veut, ce qu'on veut donner comme couleur.
T'es dramaturge, c'est toi qui crée le récit.
Et il y a une succession de scènes où les enjeux sont juste personnels, en fait, où il s'agit de nommer un chien, où il s'agit de choisir si on va descendre ou pas d'un bateau et du coup faire advenir un acte ou au contraire attendre.
On est metteur en scène aussi.
Ouais, mais metteur en scène, on a très peu de contrôle sur le choix du truc. Mais je trouve que narrateur marche bien, dans le sens où on donne une couleur plus que des intentions.
J'ai réécouté, parce que je m'en souvenais plus, j'ai réécouté donc l'épisode qu'on avait, c'était un épisode en public, on avait invité les gens de Dontnod d'ailleurs, c'était avec, mais à l'époque de Remember Me, parce qu'on était en 2013.
C'est vieux.
Rappelez-vous, 2013, c'était juste la première saison de The Walking Dead qui venait de sortir, les quelques mois auparavant, donc on est vraiment sur cette période de rupture, de renaissance du jeu narratif, qui était un peu en mode stand-by avant, donc... Et donc, on parlait de ça et j'étais déjà super enthousiaste. Et en fait, je parlais on incarnait l'histoire, en fait. On incarnait pas un personnage, on incarnait l'histoire de Kentucky Route Zero. Et c'est vrai qu'il y a... Il y avait, et c'est marrant parce que j'ai refait le premier acte ces derniers temps-là. Et en fait, je me suis réécouté parlant de ce même premier acte en 2013. Et c'est marrant parce qu'il y a ce moment... Alors, à l'époque, je ne savais pas que ça allait être autant peut-être une rupture dans le jeu vidéo, mais c'est, tu en parlais déjà, sur le choix du nom du chien. Qui est peut-être ton premier acte en tant que narrateur, en tant que co-narrateur du jeu. C'est-à-dire qu'on arrive dans une station-service, on découvre que quand on clique à un endroit de l'écran, notre personnage y va. Donc qu'on est finalement dans une structure point and click connue. Et puis on commence à discuter avec ce vieil homme et le vieil homme dit... c'est votre chien, comment il s'appelle ? Et là, on doit répondre, il s'appelle Homer... Elle s'appelle Blue ou je ne sais pas, c'est un chien errant. Et donc, du coup, rien qu'avec cette question-là, ça veut dire qu'on se rend compte tout de suite sur le premier choix qu'on a à faire, qu'on est à des années-lumière de LucasArts ou même clair. De The Walking Dead. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas à choisir... On crée l'arborescence.
On s'approprie vraiment.
On s'approprie.
Mais du coup, tension lors de ce choix. Il a l'air complètement anodin.
Et moi, je me suis arrêtée à un moment, en fait, je me suis dit, oh là là, attention.
Il est fondamental. Il est fondamental dans la création, comme une poterie que tu seras en train de mettre, de prendre forme devant toi. En fait.
L'anecdotique qui devient fondamentale, c'est-à-dire que c'est la façon, c'est un détail narratif dont tu prends le contrôle, mais tu sais que ça ne va pas avoir un impact monstrueux sur le déroulé de l'histoire. Et finalement, ça te met à ta place directement.
Mais surtout le jeu, alors moi je ne l'ai pas fait à l'époque, je le découvre là. Du coup, c'est assez difficile de rétrospectivement de voir l'impact et comment il s'inscrit dans l'histoire du jeu narratif, mais j'ai l'impression qu'il pose un truc qui était assez fou, c'est la non-linéarité, en fait. Il n'est pas du tout dans les embranchements, même s'il y a des moments où les choix, on sent qu'ils ont un impact, qu'on va zapper une scène en choisissant tel dialogue. Mais il y a une espèce d'impressionnisme qui est quand même assez rare et qui n'est pas ce qui s'est imposé dans le jeu narratif aujourd'hui, en tout cas.
Ça ne s'est pas imposé, mais en même temps, ça a plus de place. Parce que alors, il faut, si on revient à cette époque-là, à l'époque The Walking Dead, il y avait, moi je me rappelle, mais même sans jouer au vieux, mais ça nous arrive souvent malheureusement, mais il y avait toujours cette contrainte dans la construction même d'un jeu narratif, c'est la liberté que tu donnes aux joueurs qui va contre la narration. C'est-à-dire que tu donnes beaucoup de liberté aux joueurs, tu es obligé de faire des embranchements. Et plus tu fais des embranchements,
tout est dans l'illusion,
c'est le bordel.
En fait,
et tout est en illusion. Donc, si tu fais une narration très construite, tu restreins les libertés. Mais si tu donnes beaucoup de liberté, tu es obligé de limiter ta narration. Et tout ça parce que l'interactivité devait changer l'histoire, devait avoir un impact sur l'histoire parce que c'était du jeu vidéo. Tu comprends, le jeu vidéo, tu dois avoir un impact sur l'histoire. Et ça donne, dans sa version absolument ultimate, ça donne Détroit, qui est quand même le truc par embranchement le plus taré connaissance, avec des milliards de fins.
C'est intéressant que tu le cites parce que justement, on parle souvent de 2012, on parle de Walking Dead, mais tu as vu Heavy Rain 2 ans avant, qui lui avait pris c'était un gimmick que je trouvais intéressant à l'époque, c'était la gestuelle avec la manette où tu mimais des actions. Et il y avait aussi le fait de faire entrer le joueur physiquement dans une sorte de performance, tu vois, de roleplay quasiment devant son écran. Ça, c'était intéressant. Il y a eu différentes d'entrée et d'expérimentation à ce moment-là sur quelle place a le joueur par rapport à une narration, est-ce qu'il peut l'impacter, comment il la vit dans son salon.
Mais ce qui est assez marrant, c'est pas forcément l'option qui s'est imposée le plus dans le jeu narratif. Par contre, j'ai l'impression que ça a eu beaucoup d'héritiers, on va dire. Le plus évident, c'est Oxenfree, où on est pareil dans un truc de dialogue où on va choisir une couleur à chaque personnage et essayer de donner un ton, en fait, à son jeu narratif. Mais même si on regarde beaucoup plus loin, un truc comme le dernier Assassin's Creed, où ils introduisent des petits jeux de dialogue pour les personnages, la plupart servent à rien d'autre qu'à donner une espèce de petite touche d'individualité aux personnages. Et en fait, on est plus là-dedans que dans...
Et même je, alors, il y a Telltale qui va finalement, je pense... Alors, est-ce que c'est une inspiration directe? Est-ce que c'est l'ambiance des développements de jeu? Mais le côté où les dialogues vont aussi servir à une sorte de mise en scène, on ne va plus être que des dialogues où on va nous marquer, attention, ce sera une conséquence sur machin, mais ça va servir à l'ambiance. Ça marche dans beaucoup de Telltale. Un jeu qui a été important qui était aussi à Edith Finch.
Oui.
Enfin, on est vraiment dans c'est des choix de game design hyper forts. Enfin, quand on se rend compte aujourd'hui rétrospectivement, ce que Cardboard a fait en 2013, c'était incroyablement novateur.
Il y a un truc, un plaisir de compteur, je trouve, dans le jeu, qu'on retrouve beaucoup dans Where the Water Tastes Like Wine.
Alors, tu as aussi ce truc
de ruralité, d'Amérique un peu des paumés, quoi, mais...
N'est-ce pas dommage finalement qu'ils sortent 7 ans après ? Est-ce que finalement, justement, ce qu'on disait, c'est qu'en bourgeon, il y avait quelque chose de très impactant et de quasi pas révolutionnaire, mais qui en tout cas a secoué le genre.
Oui, mais je pense qu'il n'aurait pas pu être comme il est aujourd'hui s'il était sorti si vite.
Je pense
Il y avait besoin de cette maturité et je pense qu'il y a aussi l'ère Trump qui a joué dedans aussi. Quoi. Ouais. Enfin, tu sens qu'il y a des choses qui ont influencé l'écriture.
Comme Life is Strange 2 aussi. Enfin, on sent, voilà,
oui.
Et puis tu sens aussi qu'il y a de plus en plus d'audace à mesure que tu avances dans le jeu. Enfin,
tu sens qu'ils sont encore de plus en plus radicalité est de plus en plus forte au fur et à mesure des actes. En fait.
C'est un objet vidéoludique particulier d'avoir eu une fabrication aussi longue et qu'on a pu voir évoluer puisqu'il y a eu des épisodes publiés entre deux. C'est un objet qui va être intéressant à analyser sur le temps, sur l'évolution, sur comment on travaille un jeu, comment on l'adapte.
Ce qu'il peut dire sur l'histoire du jeu vidéo.
Ce que tu disais sur Trump, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on ne le voit donc que dans le dernier épisode, c'est ça ?
Oui, c'est dans le dernier acte surtout.
Ouais, enfin, il y avait un côté un peu Steinbeck, l'Amérique d'en dessous, l'Amérique du bas, qui était dès le début.
Et puis tous les personnages sont des paumés, qui réparent des magnétoscopes. Il y a toujours un côté vraiment à côté de la plaque. Tu vois, le héros est livreur d'antiquités.
Oui, ça en dit beaucoup.
C'est la dernière livraison d'une entreprise qui ferme. Enfin, tout est sur le déclin et sur la perte de maison, le déracinement,
le basculement d'une nouvelle société, quoi.
Je trouve que c'est un jeu qui a quand même vachement de propos et
il parle de beaucoup de choses, oui.
C'est un jeu qui arrive aussi après la crise de 2008. Hein.
Oui.
C'est plus elle aussi qui se sent, et aussi Trump dans le dernier épisode.
Oui, et puis ça parle d'une Amérique en déclin, d'une société qui change, du capitalisme, de la finance qui gagne, de surendettement aussi, de personnes délogées, de sans-abri, de personnes qui cherchent une place dans un monde qui ne comprennent plus aussi, donc... d'endroits désertés aussi. Je pense qu'on pourrait parler pendant des heures des lieux et comment ils sont chargés d'histoire et comment ils sont foutus même.
N'était-ce pas l'histoire
L'intérieur-extérieur, les bureaux dans une église, il y a tellement de choses.
Est-ce que c'était pas le genre point and click en général qui se posait plein de questions métaphysiques à ce moment-là aussi ? Est-ce que ça n'a pas aussi, en dehors de Telltale ? Parce que évidemment, Telltale, eux, ils entraient dans une logique de production industrielle, d'industrialisation du genre. C'est un peu le cas inverse, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi ça ? Est-ce que le genre même n'est pas questionné par cette mise en scène ?
Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de regrets et de remords dans ce jeu. Il y a beaucoup de mélancolie, d'héritage perdu aussi. Enfin, il y a quelque chose de l'errance aussi. Enfin,
Et sur ce que tu disais, c'est vrai que c'est un jeu lent.
Oui.
C'est un jeu qui
demande de la patience.
Une éloge de la lenteur. Quelque chose qui est très impressionnant en 2020, la date de sortie du dernier épisode, c'est au lancement du premier. Il y a déjà un effet waouh. Enfin, le choix de design du premier épisode, de ce qui est sorti en 2013, c'est le même code en termes d'aplat de couleurs.
On dirait des petites cocottes en papier toutes fragiles.
De trucs vraiment vectoriels.
Ouais.
Tu veux dire qu'esthétiquement, ça n'a pas bougé ?
Ouais.
Ah ouais, c'est l'avantage aussi d'un certain minimalisme.
Oui.
C'est un minimalisme
bien.
Non pixelisé. Enfin, c'est pas du pixel, c'était vraiment un choix.
Oui, on dirait du papier, moi, je trouve. C'est.
C'est il est magnifique et ça ouais, tient jusqu'à et puis ils prennent plus de liberté techno avec des rotations de caméra qui est
ouais, je te dis il y a un effort sur la mise en scène
super beau aussi des fois
on a l'impression d'être au milieu d'une pièce de théâtre où c'est très cinématographique aussi dans la mise en scène.
Il y a vraiment un moment où t'es littéralement dans une pièce de théâtre.
Oui, en plus oui exactement oui.
Ah, lui aussi il met en scène une pièce de théâtre.
Il met en scène une pièce de théâtre,
tu joues un acteur muet dans une pièce de théâtre.
Et il met en scène aussi une exposition que je disais tout à l'heure quoi. En fait il y a beaucoup de mise en abîme finalement.
La mise en scène du théâtre dans le point and click, on pourrait développer des heures parce que c'est fascinant, parce que le point and click par définition c'est une mise en scène théâtrale et le fait que le jeu lui-même comme un certain Indiana Jones s'en amusait aussi chez LucasArts, c'est fascinant.
En tout cas, Kentucky Route Zero, vous pouvez y jouer maintenant. C'est 23 euros sur Steam. Je ne sais pas le prix sur Switch.
22 euros, quelque chose. Voilà. Et puis la musique. On
la version
parlé
Switch
de la musique,
très bien.
Mais...
La version Switch est très bien.
Et c'est très bien localisé.
Ouais.
Ah oui,
ça, c'est important ça.
Point hyper important. C'est traduit en français.
Oui.
Et bien fait. Oui. Enfin, c'est propre.
Ouais.
Est-ce que là, on ne deviendrait pas optimiste pour Disco Elysium?
J'espère.
Est-ce que la problématique... Non mais... Comment ça, non?
Non, parce que déjà être optimiste, c'est quand même
ça craint,
un peu osé.
D'accord, ouais. Mais non, mais franchement, à l'époque, en 2013, Kentucky Route Zero, c'était version originale only. Là, j'ai découvert, en le lançant à l'occasion de cette version totale, que c'était en VF et que c'était bien traduit.
Oui.
Alors que ce n'était pas gagné. Parce que c'était,
non, mais Disco Elysium, s'ils le font, je pense que le studio a l'air suffisamment... structuré et sérieux pour qu'ils fassent bien faire quoi.
Oui. Ouais.
Ça va prendre du temps.
Peut-être qu'ils ont l'adresse d'un traducteur ou d'une équipe de traducteurs de bonne qualité qui ont fait Kentucky Route Zero.
Mais je pense qu'il n'y a pas forcément des traducteurs de mauvaise qualité. Je pense que c'est juste des questions de contexte et de temps. Ouais. Et de...
Oui, c'est vrai.
De moyens,
d'outils, de ce qu'on te donne pour traduire.
Puis
on n'a pas parlé de la musique, mais waouh.
Ouais.
C'est planant.
C'est vrai qu'il y a un travail sur le son qui est vachement chouette.
C'est planant.
Et puis il y a cette alternance entre ambiante. Et country, où finalement, enfin, je trouve que c'est
petite musique de cowboy.
Et puis on vous apprend à parler la chauve-souris, ça c'est chouette.
Oui, c'est c'est pas mal.
Mais franchement, enfin, c'est il y a quelque chose de marquant. Enfin, je pense que Kentucky Route Zero en termes d'influence a eu une influence sur... Il y a un jeu dont on va parler plus tard dans l'émission qui, je pense, est un héritier direct, même si l'ambiance est totalement différente. Sur le fait qu'on peut... pour mettre de l'interaction dans une histoire, il n'y a pas besoin d'embranchement. Il n'y a pas besoin de... Il faut intégrer le joueur dans l'histoire. Il y a plein de manières de le faire, mais il n'y a pas forcément besoin de faire un truc par une sorte d'adaptation des jeux dont vous êtes le héros de l'époque, où si vous choisissez ça, allez page 62. Si vous choisissez ça, allez page 64. Il n'y a pas besoin d'arriver...
C'était
bien, je suis d'accord, mais il n'y a pas besoin d'aller dans ce plaquage de cette interactivité arborescente un peu classique pour... intégrer le joueur et impliquer le joueur.
Une bonne histoire t'emmène, je parlais de Heavy Rain tout à l'heure, ou t'as d'autres mécaniques qui font que le joueur va prendre une place plus importante ou s'investir dans une histoire, effectivement.
Là, tu t'investis émotionnellement surtout.
C'est ça. Mais
je pense que si tu n'y arrives pas, en tout cas, tu te fais chier.
Oui, c'est ça. Mais c'est comme devant une peinture d'art abstrait, par exemple. Enfin, faut être dans un état d'esprit où tu te dis, j'ai pas envie d'expliquer, j'ai pas envie de comprendre. C'est juste faut ressentir les choses.
Moi, j'avais un peu peur de ça, du jeu trop Twilight, enfin et encore non, pas Twilight Zone, mais qui va trop loin dans le what the fuck et au bout d'un moment qui est incompréhensible.
Tu peux te perdre.
T'as plein de choses qui sont pas si logiques que ça et faut accepter d'être un petit peu perdu au début, de changer de point de vue.
Faut être prêt à jouer à ce jeu quoi.
Après, il y avait des remarques, alors que moi, je ne m'étais pas fait forcément, mais que j'ai lu à droite à gauche. C'est vrai que c'est aussi un jeu qui est basé sur une certaine culture américaine, une histoire américaine, une culture littéraire américaine. C'est vrai que des fois, vu que ce n'est pas du tout ma culture, j'ai cité Steinbeck tout à l'heure, c'est le seul auteur un peu de ce genre que je connais, mais c'est vrai que...
Quotidien, mais un peu surnaturel.
Ouais, mais il y a...
C'est le réalisme magique, oui, mais...
Il y a tout ce truc-là, il y a des références parfois où on a l'impression que ça fait référence à des trucs. Moi, je suis totalement largué. Pour vous avouer, je sais pas du tout, j'ai pas cette culture-là.
Et mais je pense que c'est pas nécessaire.
Mais c'est pas nécessaire. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Pour apprécier, non, c'est pas nécessaire.
Je trouve que c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Idiomatique.
Intellectuel. Snob.
C'est très bien d'être intellectuel, mais c'est pas un jeu snob. Exactement. Voilà. C'est pas un jeu snob, c'est pas un jeu pédant, c'est pas un jeu.
Il faut juste avoir envie de lire des histoires, oui, voilà. De s'en raconter, ouais. Machin. C'est assez simple.
Il faut accepter, quoi. Mais c'est pas inaccessible.
Et c'est pas aussi absurde que ça en a l'air.
Et le fait qu'il y ait une conclusion est une excellente nouvelle. C'est vraiment très, très bien. On est ravis, en tout cas, que Kentucky Road Zero soit enfin un objet fini.
Ouais.
Je trouve que moi, ça me réjouit. Mon mois de 2013 aurait été très content. C'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de société. Salut, Jérémy.
Salut Erwan, cette semaine on va parler de cactus. Et comme nos cactus ont un profil en escalier, un petit peu comme des hiéroglyphes égyptiens, ça te dira sans doute quelque chose. Et si je rajoute qu'il a des grands yeux, un nez et une bouche en forme de i tout noir comme ça, alors tu auras forcément deviné, il s'agit de Cactuar. Ce personnage récurrent de Final Fantasy qu'on trouve à partir de l'épisode 6, qui est assez relou il faut dire. Et qui finalement a son jeu dédié tout à lui, Final Fantasy 14 Gold Saucer Cacpot Party. Oui c'est pas très facile à dire, mais c'est très facile à trouver sur le net. Je vous préviens tout de suite, même s'il s'agit d'une licence forte et d'un personnage à personnalité plutôt prononcée, ça n'a quand même aucun rapport avec le jeu lui-même. Tout ça est calqué à grands coups de talon sur une mécanique très ingénieuse, mais pourquoi Final Fantasy? Pourquoi Cactuar? Peut-être que j'ai raté une référence et j'invite alors tous ceux qui savent à me l'expliquer dans les forums. Merci. Et donc il s'agit d'un jeu de pari, un jeu de déduction, il faudra un peu bluffer, un peu calculer aussi. Au centre de la table, il y a un plateau de jeu avec une grille de 3x3. Et puis il y a des gros jetons qui sont numérotés de 1 à 9. À 4, chaque joueur va recevoir deux jetons numérotés qu'ils vont pouvoir tour à tour poser au centre sur la grille. Le premier jeton sera posé face visible, donc son numéro de 1 à 9 sera connu de tous. Par contre, le second, et c'est très important, sera placé face cachée par son propriétaire et donc seul lui connaîtra le chiffre inscrit dessus. Il y a forcément un dernier jeton dont personne ne connaît la valeur qui sera posé sur la dernière case libre de la grille. À partir de ce moment, on passe dans la seconde phase, celle des paris. En effet, tour à tour, les joueurs pourront poser l'un des trois marqueurs de leur couleur sur l'un des espaces prévus à cet effet. C'est-à-dire en face d'une ligne, d'une colonne ou d'une diagonale sur la grille principale. Et oui, on pourra parier sur les bingos, je m'explique. Si on pense que la somme des chiffres d'une ligne fait exactement 15, alors il faudra vite poser son marqueur en face de celle-ci. Le premier obtiendra 3 points, le second 2 points et le troisième 1 point. Si à la fin de la manche, la somme est en effet 15, une fois que les jetons cachés sont révélés évidemment, on obtiendra aussi des points s'il s'agit d'un straight bingo, c'est-à-dire une suite de 3 chiffres qui pourraient être d'ailleurs dans le désordre. En dehors de la grille, il y a deux espaces dans lesquels on pourra aussi parier. Le premier représente 3 cases qui représentent le nombre de bingo qu'on pense qu'il y aura dans la grille. 0 et 1, 2 ou 3 à 8. Et enfin, un dernier espace de 9 cases qui nous permettra de deviner quel était le 9e jeton. C'est ce qui d'ailleurs rapporte le plus de points dans ce jeu. Cacpot Party est vraiment surprenant, mon groupe a adoré. Forcément, on va pas parier tout de suite à partir de l'information qu'on a, on veut pas que les autres arrivent à des conclusions qui leur permettent de marquer encore plus de points. On se regarde, on rigole, on trash talk à mort, c'est absolument jouissif. Et puis le matériel est très joli, il y a du cactus en bois, des jetons en plastique, et une thématique un peu à la New Vegas comme ça. Enfin, la réalisation est parfaite. Et voilà, Final Fantasy XIV Gold Saucer Cacpot Party est un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 10-20 minutes. À partir de 6 ans, ça fonctionne très bien. Et c'est édité chez Square Enix. Je sais pas si ça s'entend vraiment, mais je fais tout ce que je peux pour vous attirer vers ce monde des jeux de plateau. Bye bye!
Bye bye Jérémy, à la semaine prochaine. Non, pas à la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est vacances. Et on n'a pas enregistré d'émission d'avance, désolé. On essaiera pour les vacances de printemps, promis. Bref, donc pas d'émission la semaine prochaine, mais on se retrouve dans 2 semaines. Je ne m'attendais pas à ce qu'un jeu estampillé Final Fantasy XIV soit aussi jeu de société que ça, mais c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise. On va continuer dans les histoires à raconter et les nouvelles façons de raconter des histoires. En tout cas, est-ce que c'est nouveau, est-ce que c'est pas nouveau, on va en discuter. C'est un peu toi qui as fait le programme de cette émission, Camille. Hein. Voilà, on va le dire. Hein. Mais non, mais parce que tu as dégoûté, enfin, t'as ressorti des perles. Et celle-là, moi, j'avoue que je n'avais pas vu passer. Ouais. Ça avait déjà 2 semaines que tu nous en parles.
Ouais.
Et ça s'appelle Not for Broadcast.
That could be catastrophic. The catastrophe is that they're succeeding.
Listen, now, I know you've only come in to clean up the place, but I've got a bit caught up. You're gonna have to run the news tonight.
But today is day one of a new future.
Nothing, Jeremy. We're still vassal slaves, we're just in prettier cages.
Very own Patrick Bannon, live at the first. My goodness, that must have been quite a shock.
Hello, Mr. Donaldson.
Alors, pour les quelques auditeurs qui n'en peuvent plus de Patrick qui parle de FMV...
À chaque semaine
Il y a un
lobby, changer de podcast, quoi.
Changer de podcast.
J'avoue que secrètement, je mène un lobby pour le retour en force de la full motion vidéo qui va reprendre le pouvoir dans le jeu vidéo, mais... je pense, à terme. On y reviendra, vous verrez, en 2030.
Déjà, on en parle beaucoup,
Patrick,
là. Donc...
Patrick, on est dedans.
Mais on y est, ouais. Mais c'est chouette.
On n'a jamais autant parlé FMV que depuis 6 mois.
Tu sais, je pense que mon moi de 1993 serait ravi, à peu dire. Voilà, donc je suis content pour lui. Il passe le bonjour, d'ailleurs.
Note for...
Il faut lui dire que la 3DO va pas fonctionner, parce que c'est vrai que j'y croyais beaucoup à l'époque, mais elle n'a pas fonctionné. Mais des belles choses arrivent quand même. Tiens le coup.
On lui dira. Il nous écoute. Not for broadcast, c'est un jeu de FMV. On va manipuler des images et avec une ambiance. Du FMV avec une ambiance années 80, on va le dire. Donc du coup,
ouais, anglaise années 80, ouais,
dystopique.
Dystopie années 80, régime dictatorial. On se retrouve aux platines d'un poste de montage vidéo en direct. On est chargé
une régie en fait,
une régie vidéo. D'ailleurs, c'est bien foutu parce qu'on a une vue subjective et puis on a différents spots comme ça dont avec les touches on peut se tourner, on répond au téléphone. Donc on a une appréhension de l'endroit, c'est-à-dire qu'on est vraiment conscient d'être devant un poste, de régie vidéo. Et puis c'est parti. En fait, on arrive un peu par catastrophe là-dedans. On précise, pour l'instant, on a un accès à trois premiers chapitres. C'est une première partie du jeu pour l'instant uniquement. Un early access.
Alors oui, c'est pas un jeu par épisode, c'est un early access.
Voilà, c'est une première partie. Les développeurs le disent d'ailleurs en toute fin d'expérience. Ils nous donnent rendez-vous pour la suite. Et donc voilà, ils attendent les commentaires des joueurs d'ailleurs. Donc on est aux commandes de ce poste de montage. Et puis c'est parti, la vidéo s'enclenche. Et puis là, on apprend. C'est-à-dire que c'est plutôt bien fichu, je trouve. C'est qu'on a beaucoup de paramètres à gérer pendant la partie parce qu'on a plein de mécaniques à gérer. Donc on a évidemment 4 flux vidéo. Qui sont en simultané et puis on doit jongler entre les points de vue qui vont être diffusés à l'image. Donc ça paraît simple, c'est-à-dire qu'on va cadrer. C'est génial, c'est quand tu lances, moi je suis pas du tout monteur vidéo, c'est pas du tout mon métier, je respecte ça mais c'est pas du tout mon truc, mais tu retrouves tes réflexes de consommateur télé, c'est que tu sais ce qu'il faut à peu près faire, c'est-à-dire que tu crois savoir parce qu'évidemment c'est un métier, mais tu dis tiens là je vais mettre un plan général, je vais recentrer sur lui. En fait c'est assez instinctif parce que je pense que le jeu rebondit aussi sur ta culture télévision, ta culture de tout ça, et puis évidemment cette ambiance un peu années 80 qui fait que tu te sens dans ton jus immédiatement. Alors ça paraît simple au début, tu jongles quand un personnage parle, hop, tu le mets en plein cadre, hop, tu zappes comme ça entre les caméras, et puis ça se complique peu à peu, c'est-à-dire que le jeu va commencer à t'ajouter des éléments de gameplay peu à peu. Il va falloir par exemple couper des gros mots, t'as un beeper quand... Alors là, c'est bien fichu, c'est que t'as un flux, en fait t'as plusieurs flux vidéo, t'as un flux avec quelques secondes d'avance avant de passer en direct, donc tu sais quand un gros mot va être dit, par contre vite réagir, appuyer sur le bouton qui fait le zapper pour pas que le mot passe à l'antenne.
C'est quoi, c'est que des talks que tu gères?
Alors t'as plusieurs reportages en fait, t'as plusieurs choses, t'as des talks, t'as un reportage on est dans un univers comme tu dis dystopique, avec une sorte d'absurde latent qui est toujours là, aussi bien dans les talks où t'as des personnages complètement fous qui parlent entre eux, t'as la couverture d'une sorte de compétition sportive mais où les règles changent à chaque instant, c'est incompréhensible.
Là pour le coup c'est du pur Monty Python.
Ah mais c'est complètement fou. T'as plusieurs contenus différents comme ça, mais avec toujours cette problématique de gérer tes caméras. Donc je disais couper les gros mots, donc tu les vois arriver, boum, il faut réagir, choisir les images, balancer les pubs au bon moment, c'est-à-dire que tu sais, tu dois vite voir, tu choisis tes cassettes que tu enclenches dans les lecteurs en bas avec
les
tes
yeux,
touches
les
aussi
yeux qui brillent.
Et puis tu as des mini-jeux qui sont plus ou moins stressants, réussis. Tu as un mini-jeu notamment sur les interférences vidéo. Alors ça, c'est
le truc le plus inutile du jeu.
Ça ouais, plusieurs couches. Dommage.
En fait, je pense que ça t'amène une tension continue avec des alarmes.
C'est vraiment dommage parce que du coup, tu n'arrives plus à suivre le direct et ce qui se passe à l'écran. Et du coup, tu loupes pas mal de choses. Moi, je me suis concentrée là-dessus. Hyper. En plus, j'ai joué dans des conditions lamentables. J'ai joué en lançant Shadow. Et ça a été une vraie catastrophe.
Ah mince.
Mais bon, j'avais pas le choix à ce moment-là. Donc du coup, c'était très frustrant parce que du coup, j'arrivais plus à suivre ce qui se passait à la télé et c'était super intéressant en plus ce qui se passe. Donc voilà.
Je suis d'accord. C'est cette section un peu arcade là, ouais. Donc un écran déporté à droite.
Je pense que c'est un peu de trop.
C'est un peu vulgaire, un peu basique. En même temps, moi je pense qu'il y a une réflexion dans tout ça qui moi m'a parlé. C'est sur cette distance que tu as quand tu es derrière ou derrière une caméra ou derrière donc un poste de montage, c'est-à-dire que tu ne vis plus vraiment l'action en elle-même. Et d'ailleurs, c'est intéressant, moi j'ai refait les passages évidemment pour optimiser mon score, parce que tu as un score évidemment sur comment tu as réussi à jongler, à pas trop te planter.
Un score d'audience.
Et tu te rends compte, ce qui est intéressant, c'est que ça pose la question de ton rapport à l'image. C'est-à-dire que souvent dans la première partie, tu captes pas tout ce qui se passe, et je suis d'accord, tu es là à jongler avec les différentes activités, un peu de gameplay différentes, tu dois jongler avec tout ça. Donc finalement, tu suis pas trop l'action, tu es plus dans une sorte de réaction quasi instinctive à l'événement sans vraiment trop cerner. Et plus tu vas rejouer, plus tu vas saisir évidemment ce qui se passe, le propos, et tu vas vraiment, commencer à maîtriser la scène et à bien comprendre les enjeux. En tout cas, pour moi, ça pose la question du fait que quand tu es derrière une caméra ou derrière un poste de montage, tu vis l'action, mais tu la vis avec un filtre, une sorte de recul qui fait que tu l'observes. Et on le voit d'ailleurs à un moment, quand tu commences un peu à être habitué, tu as tes quatre postes vidéo, finalement tu regardes même plus ton écran principal, c'est-à-dire que tu apprends vraiment à jongler avec, tu vois, en...
Comment avec dire, les touches de ton clavier.
Oui, c'est ça, c'est que tu regardes même plus l'écran du flux en direct.
T'es dans l'anticipation. Ouais.
Et en fait, en fin de partie, moi j'arrivais plutôt bien à jongler, mais ça demande effectivement
c'est un peu déroutant quand même.
Camille. Alors.
Et donc du coup, on a ces parties où tu es le régisseur, mais tu as aussi, c'est entrecoupé de moments où tu es chez toi à la maison, et là,
Ouais.
Bah, tu fais des choix, quoi.
C'est entrecoupé de systèmes dont vous êtes le héros.
De discussions
à choix multiples qui permettent de
comprendre un peu mieux ce qui se passe dans cette société.
C'est pas fulgurant. Mais je pense qu'on voit pas tout le jeu pour l'instant. Je pense qu'on n'a pas une vision non plus des impacts que peuvent avoir tous les choix qu'on fait, parce qu'on fait quand même des choix aussi importants dans ces QCM. Je pense que l'échantillon du jeu qu'on a fait qu'on ne voit pas ce que ça pourra donner à terme. J'espère que ça aura vraiment un jeu.
Ça prendra un peu de consistance.
Le jeu, c'est juste être un bon fonctionnaire, en fait.
Papers, please. Évidemment. Surtout que tu as des... Ce qui est amusant, c'est...
Mais sauf que Papers, please, il y avait des moments où tu avais envie de laisser passer les mecs et t'essayais de...
Bah là, t'as un événement, là, justement. La couverture de l'événement sportif où tu as des... Comment dire, t'as des manifestants qui interviennent, et là, on te demande de couper, en fait, de cadrer pour pas les voir, en fait. Il faut absolument pas qu'on les voit, donc c'est à toi de jongler. Mais évidemment, tu te poses la question, qu'est-ce que je fous là? Est-ce que je dois le faire? Et je pense que c'est là où, justement, cette reprise narrative qui, pour l'instant, dans ce qu'on a pu jouer, reste très superficielle, c'est là, je pense, où elle va prendre plus de place, et elle doit avoir un rôle plus important, je pense, dans la suite.
Camille, t'en as ressorti quoi de
le contrôle de l'information.
Not for broadcast.
Ouais, c'est ça. Puis bon, c'est assez drôle le fait de se retrouver derrière et de, comme tu disais, on a des réflexes comme ça qui viennent de façon un peu. Ça vient tout seul, quoi. Mais du coup, c'est au début, tu t'appliques vraiment pour être. répondre à ta mission, mais finalement, plus ça passe, plus tu réfléchis, tu te dis, mais attends, mais merde, en fait, j'ai un impact énorme sur ce qui peut se passer dans la société, quoi. Et du coup, c'est là où tu as les moments où tu es chez toi, où tu prends conscience de l'impact, finalement,
dans la vie avec la famille du héros qui est là, les interactions.
Voilà, les personnes qui sont dénoncées, qui doivent disparaître, enfin tu vois, c'est...
Et c'est pas trop gros sabot sur le côté, j'appuie sur le bouton censure et...
Alors, oui et non. Après, il y a des instructions très claires, vous disiez que c'était très intuitif le montage, et en même temps on doit suivre des instructions très claires, c'est-à-dire qu'on doit cadrer sur la personne qui parle...
Mais pas trop longtemps.
Plus de 10 secondes, sans mettre un plan de coupe, mais les plans de coupe peuvent pas durer plus de 3 secondes, etc.
C'est un rythme à prendre.
T'as tout un tas de règles, et donc en fait pendant une émission qui peut être assez longue, qui peut durer plusieurs minutes de vidéo avec plusieurs sources d'écran, tu jongles entre les écrans à passer. Les mini-jeux, donc censure et un espèce de oui, potard de niveau où il faut faire passer un point entre des trucs.
C'est strident, ça, quand t'as l'alerte qui se met à sonner. Mais c'est assez strident.
Et ça, c'est le truc un peu le truc inutile du jeu, c'est ça.
Ce qui est sympa aussi, c'est de choisir les publicités que tu vas faire passer, parce que ça a un impact aussi. Quoi.
Tu choisis les trois publicités que tu vas passer pendant ta séquence vidéo. tu vas pas rater les lancements. Et il y a même des moments où tu choisis les images d'illustration.
Ouais, en fait,
oui, pour les news.
Pour les news, et qui vont influer sur ce que vont dire les présentateurs. Mm-hmm. C'est-à-dire que si tu parles d'une star et que tu mets une photo où la star vomit, c'est pas la même chose que si tu mets une photo où la star sort avec, avec un mannequin et tout ça. Donc, tu influes comme ça sur les directs. Moi, je trouve que la séquence de montage fonctionne parfaitement. Enfin, y a un truc où tu es en stress.
Surtout quand tu as de l'imprévu qui arrive.
Surtout quand
et ça, il y en a.
Il y a des sacrés moments d'imprévu. Ouais. Que ce soit sur le plateau parce que tu as un interviewé qui dérape complètement,
ou il se passe des choses.
Ou alors tu as les événements diégétiques qui arrivent. Hein, c'est-à-dire que tu as un orage, je ne vais pas trop spoiler, mais je crois que c'est le dernier chapitre, où tu as un orage qui a lieu pendant la prise de vue, pendant le tournage direct. Et tu as des coups de jus qui arrivent aussi bien sur le plateau que toi.
Et du coup, tu ne peux pas gérer ce que tu voudrais gérer comme la censure. Il faut que tu fasses au bon moment parce que sinon, ça ne passe pas.
Et moi j'ai trouvé un truc intéressant, ce qui est quand tu es trop concentré sur la technique, en fait tu ne remarques pas le fond, le propos de ce qui est en train de se dire.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Et moi je trouve ça intéressant aussi. C'est le propos en tout cas est peut-être assez intéressant là, c'est-à-dire qu'en fait une fois que tu as fini l'épisode, tu as accès, tu peux revoir tout ce qui s'est passé en fait.
Qu'est-ce que tu as coupé ? Tu es un peu aliéné en fait par ton travail de technicien. Bah, quoi. Oui.
C'est finalement le truc de position que j'ai trouvé peut-être le plus intéressant. C'était ça, de se rendre compte que quand tu es à chasser les gros mots, à faire ça, à être sûr de faire 10 secondes de la personne qui parle, plus 10, 3 quoi. Secondes de plan de coupe, choisir le plan de coupe parce que les caméramans sont un peu à changer de plan et tout ça. Donc, choper c'est quelle caméra qu'il faut que je mette. Et bah, tu t'intéresses plus au fond. Et déjà ça, j'ai trouvé ça intéressant. Après moi j'ai deux trois trucs qui sont un peu bancals. C'est quand on fait le parallèle avec Papers, Please, on sent l'ambition de Not For Broadcast de jouer sur les conséquences. C'est tes actes ont des conséquences, tes choix ont des conséquences, et là le lien entre les deux il est un peu distendu. C'est-à-dire qu'on ne voit pas encore très très bien où est le propos. Je sais que, par exemple, tu as un questionnaire hors salle régie. De montage, hors régie, qui t'arrive où tu dois dire t'es intéressé par quoi, etc. Et tu ne sais pas trop comment ça...
Ah oui, c'est vrai. Ouais,
tu as l'impression que ça influe le reste, parce que moi, j'ai mis c'est quoi votre valeur la plus importante. J'ai coché genre l'égalité. Et après, la dictature, elle devenait ultra égalitaire, enfin, entre guillemets. Donc, j'ai eu du mal à... Ça veut dire quoi ? Enfin, en fonction de ce que j'ai mis, on est plutôt dans une dictature communiste, mais si j'avais mis que le plus important c'était le pognon, on serait arrivé. Du coup, on sait pas trop où se situent les embranchements, où se situent les choses. Et après, quand on fait des choix, on se rend compte, il y a une, on va dire, sans spoiler outre mesure, mais il y a une pub qui peut avoir des conséquences au début. On le sent, c'est un peu avec des gros sabots, c'est-à-dire que si on la passe, il peut y avoir des conséquences, et on sent un peu plus tard que, effectivement, si on l'avait passée, ça aurait eu des conséquences. Mais c'est bancal à ce point de vue-là. Et je parlais de l'environnement narratif, ils sont entre la dystopie et Monty Python. Du coup, on a du mal à voir où est-ce que...
C'est grave, mais pas trop, quoi.
Ouais. Où est-ce que c'est sérieux ? Tu vois, Papers, Please, on savait. Ah bah enfin, le truc, il y avait quelque
y
chose qui pesait.
Hein.
Ouais, mais quand en fait, tu fais un truc à propos des conséquences de tes actes, c'est difficile de faire du grand guignol en même temps. En fait.
Ouais, enfin, après, on a eu qu'à accès à trois épisodes. Il faut voir dans la globalité, je pense qu'il faut...
Mais les acteurs sont bons. Enfin, la pièce de théâtre, j'étais mort de rire, quoi. Mais vraiment,
c'est drôle.
T'as vraiment des
passages.
Je pense qu'il faut laisser sa chance, quoi. Il faut voir ce que ça donne.
Je pense qu'ils ont vraiment recruté une troupe de comédiens ou des potes, j'en sais rien. Je sais pas comment ils ont produit ça, mais c'est vraiment bien fichu. C'est vraiment marrant.
Le jeu d'acteur est pas mal, hein.
Ouais. Non, même les présentateurs, enfin, je trouve ils sont juste à la limite, ils sont réalistes, probables, mais en même temps, tu sens quand même que tu es dans un jeu vidéo, il y a une sorte de décalage. Et moi, je trouve que comme tu disais, on est en 2020, c'est bien. On sent que la full motion vidéo, entre guillemets, est maîtrisé. Enfin, moi, ça me rappelle les mécaniques de Night Trap. Night Trap, c'était ça, c'est que tu avais plusieurs flux vidéo en direct et tu jonglais dans tes caméras, mais le jeu était d'une rigidité absolue. Tu devais appuyer sur un bouton au bon moment, machin. Enfin, ça marchait pas très bien. Là, on sent que. En plus, y a un propos. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une évolution claire et nette de l'usage de la vidéo. Et.
Le truc, c'est que la bande-annonce de la suite est, très tentante. Il y a un truc où ils font une bande-annonce de ce qui va arriver parce qu'on est encore en early access et pour le coup ça donne un peu plus d'ampleur,
plus sombre hein.
au truc en fait, c'est assez étonnant.
En tout cas
c'est 12€ sur Steam, je sais pas si c'est ailleurs d'ailleurs, est-ce que c'est je ne sais pas,
je crois pas. Hein, mais
j'ai vu que sur Steam.
Il faut bien souligner qu'il y a une vraie rejouabilité des niveaux et c'est plutôt agréable, même si en revanche peut-être aussi un point noir c'est le fait d'être obligé de rejouer une séquence, c'est-à-dire qu'il suffit que tu fasses au bout de 10 minutes tu lances ta pub au même moment, ça m'arrive plus une fois et là tu te retapes 10 minutes. Alors là il faut être dans le truc, c'est-à-dire que où tu es mais tu dis bon allez j'optimise, ou si t'as accroché tu essaies d'optimiser ta séquence, ça peut vraiment être décourageant et saoulant pour ceux qui seront qui seront pas vraiment rentrés dans l'expérience.
En tout cas une manière intéressante d'essayer de raconter une histoire en tout cas et de ça, c'est sur ce truc d'interactivité que je trouvais ça intéressant.
Le concept est vraiment pas mal,
même si effectivement unique. Ce mini-jeu à droite là, il est
frustrant.
Puis l'alerte, mais rien que l'alerte quand t'as le bruit, tu dis mais d'où, qu'est-ce qui se passe. Alors ça amène du stress et je pense que ça participe à l'expérience, mais c'est vraiment le point noir pour moi effectivement. Et en plus je vois qu'on est d'accord, donc ce n'est pas que
tout
moi
à fait.
Ce passage là,
on change d'ambiance. Et si on allait faire du camping au bord de la plage? Il y a un, on change d'ambiance, non? On change pas d'ambiance.
Ça dépend. C'est dans full motion vidéo ou pas?
Pas du tout.
Bon.
Ça s'appelle Wide Ocean Big Jacket. Nous allons accompagner Mord, Ben, tante Clone et oncle Brad.
Clone tout court.
Hein ?
Clone tout court.
Oui, c'est vrai, pardon. Clone. J'arrête pas de tousser, je suis désolé si ça vous gêne à l'audio. En camping, dans un petit jeu, donc Wide Ocean Big Jacket, développé par Turnfollow, Camille.
Oui, alors... ça va ?
C'est février, on est tous malades.
Voilà. C'est ça. Pardon, excusez-moi.
Dans un jeu, on a deux jeunes ados qui ont 12 ans, quelque chose comme ça, qui partent en camping avec l'oncle et la tante de la jeune fille. Sauf qu'ils ont oublié leur passe, je crois, pour pouvoir pénétrer dans le camping. Et du coup ils doivent faire du camping un peu sauvage. Et donc voilà, c'est pour situer.
Non, je crois qu'ils finissent par payer, ils arrivent dans le lieu de. Ouais, mais il y a une discussion au début où effectivement.
Est-ce qu'il faut qu'on monte ? Est-ce qu'il faut que. Enfin, le ton est donné, quoi. C'est vraiment très, très, très drôle. Et. Je sais pas, toi, tu y as plus joué que moi.
Ouais. Oui, je suis. Alors, c'est une expérience très courte, on va dire. C'est entre une heure et demie. Donc, c'est ça, c'est une sorte de sortie en famille avec Mord, donc, qui est la jeune ado, qui a 13 ans.
Et qui est super tordant.
Et son petit copain, son ami d'enfance qui est devenu petit copain parce qu'ils avaient envie d'être petits copains. Enfin, voilà, ils avaient. C'était le moment, quoi, Ben. Et donc, avec l'oncle et la tante, la tante et son mari. Et donc tout ce beau monde va en camping et en fait juste c'est fou parce que c'est en termes de structure de gameplay, on est dans l'héritage direct de Kentucky Route Zero. Ça a pas du tout la même ambiance, c'est très léger, c'est un côté presque sucré en fait.
Ouais, c'est très feel good.
Où on accompagne comme ça, on vit des petites scénettes familiales qui sont très très bien écrites, très courtes. On n'a pas de, c'est pas du tout verbeux, c'est des petits dialogues, c'est des petits des petites séquences.
Ouais, c'est du tac au tac.
Dans un univers, et c'est là où ça rappelle aussi un petit peu Kentucky Route Zero, c'est-à-dire un univers d'aplat de couleurs, de 3D aplati, comme ça, je ne sais pas, ça doit avoir un nom en graphisme, mais je ne l'ai pas là. où tu te promènes dans la nature, dans une nature très stylisée, mais très colorée. Tu es au bord de la plage, dans la forêt, sur un sentier de randonnée, et tu as plein de petits passages. Et là, les personnages discutent, tu choisis, tu as le choix généralement entre deux ou trois réponses, et ça avance, ça avance comme ça, cette petite histoire qui est juste un week-end en camping.
C'est tout simple.
Où ça va parler de quoi ? Ça va parler de l'enfance, ça va parler du couple, ça va parler de petits sujets comme ça de la vie quotidienne, mais excellemment bien mis en scène, excellemment bien raconté,
bien écrit, hein.
Rythmé parfaitement, c'est-à-dire que tout s'emboîte très bien. C'est dans une expérience. Alors, c'est que en anglais.
Est-ce qu'il y a du gameplay ?
Il y a du gameplay.
Question de troll, pardon. Non,
quelle vulgarité.
Tu joues la caméra, en fait, t'es avec eux, t'es assis avec eux autour du feu, tu joues la caméra de te diriger vers telle personne, ou, voilà, pour les faire parler. Et des fois, tu gères un personnage pour le faire avancer de quelques pas, pour qu'il interagisse avec, par exemple, le feu de camp ou la tente, enfin, ce genre de choses. Et mais du coup, oui, voilà, il n'y a pas de gameplay. C'est surtout du dialogue et de l'observation dans l'environnement, quoi.
Et c'est là où la force de l'interactivité, la force du truc, c'est qu'en prenant ce contrôle-là très léger sur les protagonistes, sur la mise en scène, sur ce genre de choses, eh ben on est impliqué beaucoup plus que si on avait eu à voir un épisode de série. Ça aurait pu être complètement un épisode de série.
Je trouve que le placement de la caméra est intéressant parce qu'il se place vraiment à la hauteur des personnages à chaque fois, qu'ils soient assis, debout, enfin, c'est, ou dans la voiture. T'as vécu dans la voiture. Au début, je me disais, bah, tiens, je suis un autre personnage. Et en fait, non, en fait, t'es juste la caméra, mais t'es vraiment impliqué dedans, quoi. T'es avec eux.
Et donc, alors voilà, pour une expérience d'une heure et demie, il n'y a pas, y a pas énormément de choses ni de révolutions à signaler sur Wide Ocean Big Jacket, sinon que c'est une pépite narrative, c'est vraiment un petit moment, une perle, quoi, qui est bien finie, c'est structuré.
Il n'y a aucune lenteur. Tout est bien rythmé, quoi, en fait.
Et ça se termine parfaitement, c'est trop bien. Enfin, même je spoil rien du tout, mais la dernière petite scène où il y a un peu plus de choix que d'habitude arrive, clôt l'expérience de manière parfaite. Et franchement, les gens de Turnfollow, donc là, c'est tout juste, c'est 6,60€, donc ça n'a même pas 7€
sur PC et Switch. Je crois.
Et tout est bien. C'est un vrai.
C'est un jeu qui fait du bien.
Ouais. Tu disais feel good. Ouais. Il y a un côté comme ça en fait. Mm. Et pour le coup, c'est très drôle. Et l'ado morde est un
super personnage.
Elle est
incroyable. Elle est mordante.
C'est un super personnage principal. On va enchaîner très vite. Bah, voilà. On va finir ce petit voyage dans la narration avec un système narratif finalement peut-être un peu plus classique, qui vient d'un peu plus loin. On en est dans deux visual novels. On va commencer par le premier, dont l'environnement à lui seul est original. Ça s'appelle Coffee Talk. Le visual novel Starbucks.
Ouais, on peut appeler ça comme ça.
Non, mais j'ai balancé une marque comme ça, mais il y en a d'autres.
Ouais, Coffee Talk. Donc, on est une barman qui tient un café nocturne qui ouvre après minuit, le seul dans la ville de Seattle. C'est bien ça, hein, Seattle. Mmh. Et du coup, on a des clients qui viennent s'installer au bar, qui commandent des boissons. Donc, on a au fur et à mesure, on apprend des nouvelles boissons avec des ingrédients des fois un peu improbables, où tu fais des découvertes, tu fais c'est étrange, pourquoi pas. Enfin, moi, j'ai noté quelques recettes que j'ai envie d'essayer maintenant. Et du coup, donc c'est un visual novel, donc tu fais défiler des dialogues et... Et malheureusement, tu ne peux pas trop interagir avec...
Ouais, alors en termes de visual novel, en termes d'interactivité, parce qu'on parlait d'un... Ouais. Là, on est limité. Hein.
Ouais.
Là, on est limité.
Alors... Et c'est un genre qui fonctionne très bien, mais je trouve que là, dans ce jeu-là, j'ai eu beaucoup de frustration, parce qu'il y a des moments où j'avais vraiment envie de prendre position, parce que au début, ça commence souvent sur des discussions très légères, sur les boissons ou sur des choses tout à fait anodines. Et au fur et à mesure, les personnages vont se rencontrer. Il va y avoir donc parfois des frictions ou des propos un peu plus sérieux et des discussions complètement, très profondes en fait, sur les relations humaines, sur le crunch dans le jeu vidéo, ce genre de choses. Et du coup, des fois, j'avais envie d'interagir et de prendre parti en fait.
C'est vrai que l'interaction se situe au moment de la commande de café en fait, avec un petit côté jeu flash il y a quelques années.
Il y a aucune en fait, tu peux te planter, c'est pas grave, ça va rien changer en fait, t'as aucune.
T'as des sujets super importants à aborder, mais toi, tu ne prends la main que lorsque tu commandes ton café en fait.
Et à la fin des discussions, souvent tu donnes un petit avis ou une petite remarque, mais c'est pas toi qui décides en fait, t'as pas de choix.
La spécificité de l'univers, hein, donc on est à Seattle en 2020, mais c'est un Seattle on va pas dire que c'est original, mais c'est où t'as toutes les créatures de l'heroic fantasy.
Tu as des elfes, des
qui
orbes,
sont là dans
succubes.
Une sorte de
tout va bien.
De géopolitique, on va pas appeler ça original, hein, pour le coup, il y a d'autres univers qui le proposent, mais où tu as tout un système, évidemment, où on aborde le racisme via ce type d'angle entre les elfes et les succubes ou ce genre de choses.
Oui, les migrants, à l'Atlantique.
dans des discussions de bar, moi, ce que j'ai trouvé original, c'est qu'on est dans la continuation de Red String Club.
Oui, exactement. C'est pour ça que j'ai sauté dessus, d'ailleurs.
Et de Valhalla, le jeu vénézuélien. En fait, c'est comme si c'était un genre. Tu sais, maintenant, c'est le jeu d'aventure de barman et de barwoman.
Non, mais c'est ça, mais ça marche très bien, finalement. Ouais. Et je disais, j'ai envie d'interagir et de donner mon avis, mais est-ce que c'est vraiment le rôle d'un barman? C'est plutôt là pour écouter. Et oui, tu assistes à plein de tranches de vie, de discussions, mais pas non plus à rentrer un peu trop dans les discussions aussi.
Il n'y a pas encore de gens en VR.
T'es là pour accompagner.
Tu serais un barman en VR, tu sais, où tu
doserais des trucs,
machin. Franchement, ça serait une très bonne idée.
Imagine un peu derrière ton comptoir, machin.
Tu jetterais les bouteilles, genre Tom Cruise dans le cocktail.
Ça, au début, mais après, carrément, avoir des special moves comme ça, ça serait pas mal. Ou en full motion vidéo, mais bon.
Mais pour le coup, là, j'ai trouvé, je sais pas ce que t'en penses Camille, mais j'ai trouvé que là, on descend l'interactivité encore à un niveau qui est un peu, là pour le coup, qui fait défaut quoi. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal à. Bon, déjà que le côté, on est en 2020, mais il y a des trolls et des elfes et des machins comme ça. J'ai trouvé ça un petit peu bulldozer, hein, comme contextualisation narrative. Mais du coup, ne pas avoir lire des dialogues sans même pas faire de choix.
Enfin,
Kentucky Route Zero nous a appris là-dessus qu'on pouvait proposer des lignes de dialogue qui n'étaient pas forcément des lignes d'embranchement, mais au moins pour donner cette impression, pour impliquer
Et comme tu parlais tout à l'heure de Red String Club, justement, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle. Mmh. C'est-à-dire que dans Red String Club, tu influences vachement dans les discussions. Et même quand tu répares tes boissons, il y a un challenge, en fait. Mmh. C'est pour faire parler la personne, c'est pour essayer de trouver une recette. Enfin, toi, il y a quelque chose de l'expérimentation. Tandis que là, tu mets les ingrédients et ça passe, ça passe pas, ça ne change pas grand-chose. Après, tu as ton petit carnet avec toutes les recettes, tout ça, mais du coup tu t'es pas impliqué quoi. Enfin, t'es pas...
C'est ça, ils ont descendu un cran.
C'est très intéressant, et plus ça va, plus les discussions sont intéressantes en plus, et ils nous parlent de nous, enfin de notre société quoi, mais du coup c'est un peu frustrant.
Ils ont un peu perdu l'intérêt du jeu vidéo en fait, j'ai l'impression. Ils racontent une histoire, hein. L'histoire peut être intéressante, mais à un moment ils ont un peu perdu le switch.
L'interaction quoi, le jeu vidéo quoi.
C'est la question que posait le visual novel. On va en parler. Après.
Tandis que là, en plus là, ils auraient pu faire des choses rien qu'avec les boissons. Enfin, ça aurait pu influencer sur l'humeur, sur.
Il a fait Red String. Hein.
Voilà, c'est exactement ça.
Ça s'appelle Coffee Talk, c'est un peu moins de 11€ sur PC, PC et Switch.
Ouais.
C'est la Switch, c'est tout le temps.
En ce moment, je suis à fond sur la Switch.
Et on va finir cette émission toujours donc sur du visual novel, mais là, bien différent, quand même très très différent.
Les mots sont bien choisis.
On est chez Spike Chunsoft. Hein, ouais. Spike Chunsoft, vous les connaissez, on en a parlé plusieurs fois ici, c'est la série notamment Danganronpa. Donc on est sur du truc un poil barré.
Ouais, on peut le dire. Ouais.
Un poil barré.
Mais génialissime.
On écoute Shibuya Scramble.
Ah, cette musique.
C'est là où je vais devoir demander à Patrick d'être concis sur un jeu.
Non, pas sur un jeu comme ça.
Bah si, c'est pas possible. Il faut.
C'est terrible ce que tu me demandes. Bon, on va essayer de faire rapide.
En même temps, il est sorti en 2008 au Japon. Hein, donc...
Alors oui, justement. Alors oui, je m'y penche tardivement parce qu'il est sorti il y a déjà plus d'un an en Europe. Moi, j'ai mis la main dessus vraiment il y a quelques mois. J'avais mis de côté. Il faut qu'on en parle. Et puis là, bon, on s'est dit, on va faire une émission où il y a pas mal de jeux narratifs, paf, j'en parlais, et là la révélation. Moi je sais que je l'avais pris parce que ce jeu il est un peu entouré d'une forme de culte, comme tu disais, il est sorti c'était 2009-2008 au Japon sur Wii, et puis il s'était fait remarquer à l'époque en obtenant une note monumentale chez le fameux Famitsu, qui était la référence à l'époque. Il a eu un 40 sur 40. Il y a très peu de jeux qui ont pu avoir une note pareille. Il est resté une exclusivité au Japon pendant très longtemps. Il est passé sur PS3, sur PSP, il a eu même une version Android, je crois, en 2011, mais il a fallu attendre 2018 donc pour qu'il arrive en Occident. Il est un petit peu sorti en catimini, donc si vous le trouvez, jetez-vous dessus parce que ça vaut le détour. Alors c'est quoi ?
Petit point, il est cher. Alors moi, Steam, il est à 50 balles.
Écoute, j'avais trouvé en physique beaucoup moins cher, ouais, il y a quelques mois. J'ai eu un coup de chance, donc voilà. Donc alors, on parle de quoi? On parle d'un visual novel, mais à la sauce live. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du jeu en full motion vidéo. Je ne suis pas obsédé que par ça. Il y a d'autres alternatives pour montrer et shooter le réel dans un jeu vidéo. On est plus sur un style en photo, avec succession de photos, genre roman photo. En fait.
Ah, mais on est totalement roman photo.
On est vraiment dans ce syndrome du roman photo.
Avec des acteurs de romans photo.
Ça me donne pas envie, dit comme ça.
Ah, ils surjouent.
Ils sont extraordinaires.
C'est drôle.
Ils sont extraordinaires. Ouais. Bah, en fait, c'est drôle. Au début, tu dis dans quoi je suis tombé. Vraiment, franchement, la première heure, tu as une sorte de tuto. En fait, on resitue. On est dans le quartier de Shibuya, comme le dit le titre. On a, dans les premières images, on voit un van, un camion bleu. On aperçoit en vidéo un homme attaché à l'intérieur et paf, ça explose. Et donc, voilà, l'histoire va nous raconter ce qui s'est passé avec ces personnages. On commence, on a une première section de jeu avec deux personnages qu'on va diriger. On est sur du visual novel, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des fonds vidéo avec un acteur en situation et puis du texte. Il y a beaucoup de texte, un jeu très écrit, bien écrit. Ça, c'est important.
En anglais,
il faut le préciser aussi, uniquement en anglais. Mais attention, on parle d'un anglais accessible. Oui, on n'est pas dans du Disco Elysium du tout, c'est de l'anglais. Si vous avez un niveau correct, ça passe vraiment, ça passe bien. Donc, alors, une explosion, et puis donc on a toute une histoire d'enlèvement. On revient sur cette histoire avec un enlèvement, et puis on commence avec deux personnages. On va incarner Kano, un jeune flic qui est sur place, qui va essayer de suivre une remise de rançon. Et puis l'autre personnage, c'est Aki. Alors lui, c'est un personnage qui, un ancien chef de gang qui est au chômage et qui ramasse toutes les poubelles qu'il trouve dans la rue. Il est obsédé par ça. Bah, des personnages qui ont quelque chose.
De Spike Chunsoft, hein, si tu vois les profils dans Danganronpa, enfin c'est que des...
Oui, on est clairement dans ce style de personnage. Donc on a une première... En fait, le jeu est divisé en plusieurs heures. On a, je crois, 8 ou 10 heures de jeu, avec chaque heure les différents personnages qui vont intervenir. Deux personnages sur la première, c'est une sorte de tuto pour nous apprendre à manipuler le jeu. Donc comment ça se passe? On a du texte qui nous raconte... C'est très linéaire comme tout visual novel, mais on a des sections avec du QCM où on va prendre des décisions et on va intervenir comme ça d'un personnage à l'autre. Il faut aller vite, alors j'essaie d'aller vraiment à l'essentiel. On a donc ce planning, le cœur du jeu c'est ce planning avec ces cinq, parce qu'on commence avec deux personnages, on monte à cinq, après on a d'autres personnages qui rentrent en situation. Alors ce qui est étonnant c'est qu'au début ils n'ont rien à voir entre eux, c'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont complètement différents. On a un chercheur qui travaille sur des virus dangereux, on a un journaliste qui est dans son bureau avec toutes ses affaires machin, on a une jeune fille qui est déguisée en mascotte japonaise, et tous ces gens-là se retrouvent au même endroit, et puis évidemment ils vont être ultra connectés, leurs histoires vont se télescoper les uns les autres, et c'est là où le jeu fait très fort, c'est qu'il commence très doucement, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur du visual novel avec tout ce qu'on connaît là-dessus, comme tu disais, du texte qui défile, un choix de temps en temps à faire pour actionner un embranchement ou deux, et puis ça va se complexifier de plus en plus, c'est-à-dire que c'est là où, pour moi, le jeu se distingue clairement, c'est que on doit, le but, pour faire vraiment simple, c'est que chaque journée doit être terminée avec, pour chaque personnage, arriver au fameux message à suivre, qui va pouvoir enclencher la journée, l'heure suivante, pardon. Mais avant ça, on va se planter plein de fois, c'est-à-dire qu'on va avoir des bad endings, mais qui sont pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font partie de la narration. C'est-à-dire que le jeu prend vraiment son intérêt par ses plans loose, c'est-à-dire l'interrogatoire que tu gères pas bien, où finalement le jeune flic est ridiculisé, ça se passe pas bien, du coup il décroche, il dit j'arrête, je ne suis plus flic. Et là, bad ending, ça s'arrête là-dessus. Mais tu vois, ça apporte, et finalement le jeu intègre le fait que tu vas te planter, c'est presque du die and retry, on va dire. Il intègre que cette narration, elle se fait comme ça par une sorte de millefeuille d'histoire.
Et tous les échecs rentrent. Deviennent marrants.
Les personnages, et plus tu avances dans le jeu, et plus ils prennent une épaisseur, ces espèces de personnages extraterrestres que tu vois au début, tu dis mais qui sont ces persos, et ils prennent une épaisseur. C'est là que je dis que c'est bien écrit, il y a une vraie écriture, c'est qu'ils sont attachants chacun, parce que souvent sur la première heure tu t'attaches un petit peu à l'apparence, à leur physique, et en fait non, tu vas découvrir que les personnages sont bien plus intéressants que ça, et au fil des heures tu t'attaches vraiment à ces persos. Et la vraie force de ce jeu, donc, c'est que tu as ces histoires qui se télescopent, mais qui le jeu l'a complètement intégré. Donc pour moi, les échecs font partie de l'épaisseur des personnages. Tu apprends sur eux en te plantant et en revenant dessus. Et surtout, tu as des interconnexions. C'est-à-dire que un événement, tu as un vrai effet papillon en fait. C'est-à-dire qu'un événement que tu vas prendre, une décision que tu vas prendre sur un personnage, va impacter sur son histoire à lui, mais aussi va interagir sur l'embranchement d'un autre. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir finir, par exemple, l'heure, je ne sais pas si c'est bien clair, l'heure d'un personnage, tu arrives à la fin de ce qu'il doit faire, mais on va te dire, écoute, tu as réussi avec lui jusqu'à ce passage-là, mais tu peux revenir en arrière, c'est-à-dire que tu as cet organigramme, tu reviens comme ça, tu jongles comme tu veux dans l'organigramme à l'heure près, c'est divisé en les heures sont divisées en passages, tu vas pouvoir changer son action pour avoir une action sur un autre personnage par effet de domino et de cause et conséquence.
C'est une sorte d'arborescence narrative visuelle comme ça, sur laquelle tu peux jouer, tu peux rejouer des embranchements qui te conviennent.
Et du coup, c'est une sorte de Rubik's Cube, que comme un Rubik's Cube, tu vas avoir une partie qui s'enclenche.
Mais il faut que tu trouves tous les enclenchements, que tu déclenches.
Alors, tu en as qui sont pas obligatoires, mais évidemment, si tu veux tout retourner, tu es obligé de farfouiller en tous les sens, mais tu as aussi des passages où tu es obligé de revenir en arrière, c'est-à-dire que tu vas finir avec un personnage, tu vas revenir en arrière pour le débloquer, pour aider un autre à avancer en fait. Donc finalement, ils sont tous liés, ces personnages. S'ils ne se connaissent pas au début, ils sont complètement différents, mais ils sont forcément liés, et la narration est vraiment construite. Pour moi, j'y vois vraiment une sorte de Rubik's Cube, avec comme ça des histoires qui s'entrechoquent, et c'est très bien fichu. Et alors, surtout, moi, je jouais sur PS4, j'ai pas arrêté de faire des captures d'écran, j'arrêtais pas de prendre des photos, c'est-à-dire que le jeu, il n'est pas en vidéo, il y a très peu de séquences vidéo. Il y en a quelques-unes, mais c'est pas le fond de l'habillage, c'est de la photo, mais de la photo haute définition qui passe très bien sur un écran, bel écran.
J'ai vu tes captures d'écho.
Alors évidemment, c'est humoriste. En fait, il y a beaucoup de tons différents. C'est que d'un personnage à l'autre, tu as un ton plutôt thriller, un peu angoissant, limite Seven ou autre. Après, tu as une sorte de comédie à la japonaise où tu t'es mort de rire sur des personnages complètement loufoques. En fait, le jeu, il alterne comme ça des thématiques et des ambiances complètement différentes, mais pour moi, il a vraiment ce cachet. Alors moi, je suis attaché évidemment à l'apparition de la réalité dans un jeu vidéo, ça passe par de la full motion vidéo. Là, je trouve qu'ils le font très bien avec des séquences photos. Alors, j'avais noté, je crois qu'il y a eu 2 mois de tournage, 100 000 photos prises. T'as des dizaines de fins différentes, t'as des dizaines d'heures de jeu. En fait, on taxe souvent le visual novel d'une simplicité, vous en parliez tout à l'heure, d'une interactivité vraiment réduite au minimum. Alors là, attention! On est sur une typologie de jeu particulière qui peut ne pas plaire, parce qu'effectivement, tu as beaucoup de textes à lire, tu as quand même malgré tout t'es pas sur un point and click, t'as pas un accès à l'environnement direct. Mais je trouve qu'ils ont vraiment apporté une pierre importante à la façon de raconter des histoires comme ça qui s'entrechoquent. Et encore une fois, c'est beaucoup plus complexe que ça peut en avoir l'air sur une première prise en main.
Et ça fait.
Et en tout cas, voilà, je voulais dire, en tout cas, le côté look photo réaliste est génial parce que t'as ce décalage entre la réalité crue prise en photo et puis cette histoire un peu rancambolesque qui part dans tous les sens. Et je trouve que ce mélange d'étonnant réalisme et fiction, plus ou moins crédible, fonctionne très bien. En tout cas, et je trouve que les prises de vue sont vraiment bien fichues. Il y a un vrai style. Voilà, c'est pas fait à l'arrache.
PS4
sur PC, en Occident, en version donc anglaise, un anglais plutôt accessible. Moi, je vous dis, je l'ai trouvé en version physique PS4.
Peut-être, comme d'hab, l'occasion physique est plus intéressante à télécharger sur ce genre de jeu, parce que c'est encore à 50€ sur Steam.
Ouais, là, dans ce cas-là, oui, c'est clair que. Mais en tout cas, c'est une bénédiction qu'il soit quand même sorti. Je crois que c'est Core Media qui l'a fait, qui l'a sorti en Europe, parce que c'était un ovni qui avait vraiment sa réputation. Et
là, pour le coup, qui n'a pas hyper eu d'héritier. Hein, le visual novel, le roman photo.
Je crois pas. Alors, peut-être qu'au Japon, mais en tout cas, c'est original. Moi, je trouve que. Et en plus, ça a toujours une petite dynamique. Hein. T'as des mouvements dans l'image. Ça a beau être des images fixes. Déjà, elles sont plutôt bien léchées. Et t'as toujours des petits mouvements. Et la musique.
On a entendu.
T'as des vrais trucs de musique. T'as des bruitages. Enfin, vraiment une narration intéressante. Si vous le trouvez à bon prix, allez-y. Moi, je le recommande.
428 Shibuya Scramble. C'est fini cette semaine avec le jeu vidéo. Waouh, je ne regarde plus ma montre. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Camille?
Moi, j'ai commencé Le regard féminin, une révolution à l'écran de Iris Bray. Donc, je pense que tout cet âme, on sait ce que c'est le male gaze.
Yes.
On en parle beaucoup dans le jeu vidéo, c'est cette façon de filmer selon un point de vue masculin, hétéro, où on objectifie un petit peu la femme, on la morcelle pour le susciter du désir. Voilà. Et du coup, là, c'est un peu le contraire, c'est le female gaze. Et donc, non, ce n'est pas des femmes qui filment, ce n'est pas non plus une objectivité. Du corps masculin, c'est pas l'inverse. C'est une autre approche qui voudrait remettre un peu à plat les jeux de pouvoir et où la personne filmée ne serait plus un simple objet, mais sujet et consciente du désir qu'elle suscite.
Okay.
Donc voilà.
Et c'est bien.
Oui, j'ai commencé, c'est très bien. Après, à part des théories qui viennent du cinéma, mais qu'on peut appliquer à d'autres médias comme le jeu vidéo, par exemple.
Patrick.
Deux mots cette semaine. Deux mots.
Oula.
Doom Annihilation. Et ouais.
What?
Et je l'ai vu. C'est le dernier film Doom qui est sorti. Réalisé par un certain Tony Giglio. Alors, il s'est fait complètement allumer ce film. Il s'est fait allumer dans tous les sens. Alors, on va.
N'est-ce pas un peu justifié?
Alors, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais c'est surtout frustrant, en fait. C'est surtout frustrant parce que. Alors, c'est vrai que depuis la sortie de ce film qui ne fonctionne pas, qui est raté.
Disons-le.
C'est vrai que le film de 2005 est un peu porté. Oui, c'était bien le Doom de 2005. Alors, moi, c'est plaisir coupable, attention. Plaisir coupable, oui. Là, avec la vue en subjective à la fin de la séquence, etc. Mais il ne faut pas oublier que le Doom 2005 ne respectait pas du tout l'ADN du lore Doom. C'est-à-dire qu'on
alors
était sur.
Celui-là, si.
Et ben c'est ça qui est vraiment frustrant. Parce qu'en fait, je pense vraiment que le réalisateur aime Doom, aime l'univers de Doom. En plus, il a quelques bonnes idées, tu vois. Le personnage principal, c'est une héroïne qui est plutôt badass, tout ça. Donc, il y a des idées. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une thune. Il n'y a pas de budget. Il n'y a vraiment pas d'argent. Et le problème, c'est que tu ne peux pas faire Doom, un film Doom. On parle quand même d'un. Hein, vous rappelez.
Si, il fallait le faire en minimaliste, des acteurs sur un fond.
En mode suédé.
Tu sais qu'on n'en est pas loin. Tu sais qu'on n'en est pas loin. Le problème, quand tu vois le Doom 2016, je suis en train de rejouer au Doom 2016. Qui a quasiment pas vieilli quand tu vois le truc, c'est un truc de malade. Là, tu peux pas tourner un film avec deux couloirs.
Est-ce qu'il faut tourner un film tout court?
Ouais, ouais. Est-ce que Doom s'y prête?
Alors, moi, pour tout vous dire, j'y ai pris un plaisir plus ou moins assumé, que j'assume quand même ce matin, je vous en parle. Parce que je pense vraiment que le mec a compris ce qu'était Doom. Le problème, c'est qu'il a pas une thune et que du coup, mais même le démon à l'écran, il est vraiment caoutchouteux. Quoi. C'est-à-dire que limite, tu vois la fermeture éclair dans le dos. Et c'est dommage parce que t'as une séquence pareille à la fin qui est plutôt réussie.
Tu la verrais, ça serait mieux.
De
la vraie fermeture éclair, si tu voyais la fermeture éclair, les jambes, et ça serait probablement
mieux. Mais là, je pense
qu'ils
ont repris les effets qui restaient du film de 2005. Mais en tout cas, bah, ce qui est dommage, c'est que même la fin du film ouvre sur ce que pourrait être Doom 2. Et donc, on est vraiment raccord avec les jeux au niveau thématique. Bon, voilà, il n'y a pas d'argent, malheureusement. Tu ne peux pas faire un film. Tu sens qu'il y a un passage. Il a son passage de gloire aussi, le film vers la fin. Tu as un petit passage bien fichu où tu sens que 80% du budget est passé dedans. Et du coup, bah, voilà, le reste du temps, il n'y a pas d'argent. Du coup,
ça étrange cette idée de vouloir adapter Doom en jeu vidéo. Oui.
Mais moi ça m'intéresse.
Moi je vais le voir au théâtre.
ça pourrait sûrement le faire. En tout cas, c'est sorti en direct ou vidéo, très discret. Mais même ça, c'est un peu anachronique.
Ouais, c'est sorti en scred DVD.
En direct ou vidéo aujourd'hui, tu vois. Enfin, on est en 2020. Ouais. C'est en direct ou vidéo, pressé sur une galette. Donc, même ça, il y a un côté suranné, moi, qui me parle un petit peu quand même. Voilà, donc plaisir coupable, mais bon, voilà, n'en attendez vraiment pas grand chose. Mais faut-il adapter Doom, je pense, mais avec des moyens. Avec des moyens.
Stop, débranchez.
Ouais, tout Marvel. Tout l'argent de Marvel sur un film Doom.
Tu mets tout dedans.
On s'en fout. Des milliards.
Et puis on rappelle quand même Bethesda, c'est officiellement, détaché de ce projet. Hein. Sur Twitter, on avait parlé. Ouais. Nous ne sommes pas du tout investis dans le film.
Allez, parce que la bande-annonce est sortie.
Ça mettait déjà bien dans l'ambiance, pour connaître.
Oh, Doom.
Annihilation.
Infinity Endgames.
Annihilation, d'ailleurs, c'est le nom du deuxième Mortal Kombat qui était aussi une petite. Hein. Ah non, mais comme quoi le Annihilation, faut faire attention.
Marius.
Moi, j'ai pas fait grand chose. J'ai passé la semaine à Angoulême, c'était très bien.
Ah bah quand même.
C'est pas
oui,
rien.
Non, j'ai fait plein de choses, mais rien de très. Si, je peux vous recommander l'expo de Tsugé qui dure jusqu'en mars, qui est fait par Xavier Guibert notamment, qui travaille à l'édito de Ubisoft en temps normal et qui a fait un travail formidable sur cette expo. Voilà.
Cool, et qui dépasse le festival en fait. Du coup.
Ouais, il y a quelques expos comme ça qui durent un petit peu plus. En vrai, il n'y en a qu'une, je crois.
Ouais, pas la tienne en fait.
Oui, moi j'avais une expo. Non, moi c'était. Mais non, c'est très bien. J'ai pas envie de. Hop, c'est fini. C'est fini. On tourne la page.
Moi je reste sur la BD parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas lu et j'ai eu l'occasion de le lire ce week-end. C'est Prosélytisme et Mort-Vivant.
Oh, j'adore le titre.
Ouais. Prosélytisme et Mort-Vivant, c'est le nouvel épisode des aventures de Lapineau par Lewis Trondheim.
Les aventures de Lapineau.
Oui, les aventures de Lapineau. Donc le héros bien connu de Lewis Trondheim qui, là, parcourt la France accompagné de son ami de toujours Richard une sorte d'agent de l'État chargé de monter des temples athées. Dans chaque ville. Donc, il veut monter des temples athées parce que les athées n'ont pas de lieu pour eux et tout ça. Mais enfin, c'est très drôle.
Hétéro-pride.
Non, mais c'est tout tourne. Enfin, il y a vraiment. C'est drôle parce que c'est du Trondheim. Ça tient la route. Ça tient la route jusqu'au bout. Moi, c'est un vrai. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas lu des choses comme ça. Et c'est vrai que il y a ce plaisir comme ça d'ouvrir un livre. Tu sais que ça. Enfin, ça tient bien.
Et si vous aimez Trondheim, lisez aussi lisez. Acheter le bouquin d'entretien qu'il a donné à Thierry Grunstein, pareil, à l'assaut, qui est chouette.
Ah, il faut que
je reviens sur toute sa carrière. C'est plutôt drôle et bien sûr.
Et il va falloir bientôt, je vous parlerai sans doute des nouveaux donjons parce que je ne les ai pas achetés, mais je compte bien.
Je te les passerai.
Ouais, cool. Bon, on en parlera la semaine prochaine. Non, dans deux semaines. La semaine prochaine, il n'y a pas d'émission, c'est les vacances. Donc, on se retrouve. Merci à tous. Merci pour cette très, très longue émission. Mais on se retrouve dans deux semaines sur Libération et sur les internets. Ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.